بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطبيبنا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, merci d'avoir répondu présent à cette conférence qui s'inscrit dans la continuité des conférences qu'on organise avec nos partenaires Finiquity, l'Institut Razali avec Cheikh Abdelrahman, Simea qui va être présenté tout à l'heure avec Monsieur Daniel Roussange, et Doctrine Maliki, pour sensibiliser effectivement l'opinion publique française sur la finance islamique, cette alternative à la fois précieuse et ce modèle riche, mais très méconnu malheureusement, qui est la finance islamique. On va, lors de ces conférences, essayer d'aborder le sujet d'une autre façon. Donc on avait, lors de nos précédentes conférences, pour ceux qui nous ont suivis, abordé divers sujets liés à l'introduction en France de la finance islamique, aux contrats et techniques de cette finance islamique. La dernière en date, c'était à la Grande Mosquée de Paris, où on a présenté l'aspect technique de la finance islamique. Les autorités françaises, notamment le ministère de l'économie en particulier, donc, ont fait des pas très positifs pour permettre à la finance islamique de prendre toute sa place ici, en essayant d'éviter du mieux possible les frottements avec les spécificités françaises, savoir la laïcité, le droit fiscal et juridique français qui est assez lourd, assez complexe. Je vous invite donc à voir à ce sujet donc le rapport du Sénat de français donc sur la finance islamique de mai 2008, qui était un peu la base de tous les efforts qui vont suivre. Aussi le rapport Paris-Europlace sur la fiscalité et la finance islamique, et le rapport Pastré-Juigny, les fiches doctrinales de la Direction générale du Trésor français. Donc invité au forum Europlace, la ministre de l'économie Christine Lagarde s'exprimant le 2 juillet a déclaré s'adressant à des investisseurs du Moyen-Orient présents sur place, nous allons développer à la fois sur le plan réglementaire et fiscal tout ce qui est nécessaire, donc je reprends ce qu'elle a dit, tout ce qui est nécessaire pour rendre vos activités aussi bienvenues ici à Paris qu'elles le sont à Londres et sur d'autres places. L'autorité des marchés financiers a déjà mis en place des règles compatibles avec le développement de fonds d'investissement qui remplissent les principes de la charia. J'ai demandé à mon administration d'apporter les clarifications fiscales et juridiques nécessaires pour faciliter l'émission de Sukuk, donc les obligations islamiques, et permettre la structuration d'opérations immobilières de finances islamiques sans frottements fiscaux concernant en particulier les droits d'enregistrement. Donc, nous adapterons notre environnement juridique pour que la stabilité et l'innovation de notre place financière puissent bénéficier pleinement à la finance islamique. Donc, vous voyez que c'est assez positif, il y a des signaux positifs. Et donc, dans le cadre de ces conférences qui sont évidemment gratuites, et ouvert à tout le monde. Donc, jusque-là, on avait abordé la finance islamique selon ces trois axes directeurs, à savoir le fiqh al-mu'amalat, donc le droit musulman, la finance conventionnelle, avec toute sa complexité et tout son historique, ses failles ainsi que ses avantages, et enfin le droit français, donc sous ces trois angles-là, à savoir les deux derniers axes sont le contexte même de cette finance islamique, le contexte espace et temps. Aujourd'hui, donc, on aborde avec vous un autre niveau, qui est à notre avis l'essence et le sens même de la finance islamique. Il s'agit des éléments extra-financiers. Donc, pour cela, Doctrine Maliki et Simea ont invité pour vous des gens du métier, des gens spécialistes à la fois dans le droit islamique et en finance. Donc avec nous aujourd'hui pour cela, le docteur Moulay Mounir Qadiri, donc qui est docteur en civilisation musulmane en droit de l'école d'Al-Hayt Hassaniya des islamiques supérieurs Rabat Maroc, et aussi docteur en sciences des religions et des systèmes de pensée de l'école pratique des hautes études en sciences religieuses, donc à la Sorbonne. Il est aussi le président du Centre euro-méditerranéen pour l'étude de l'islam aujourd'hui, donc CIMIA. Et les vice-présidents et cofondateurs de l'Institut d'Ibn Hajj, l'Institute for Islamic Studies Billows, et membre du Rassemblement des musulmans de France, RMF, qui siège au CFCM, et auteur de plusieurs études et ouvrages autour de la jurisprudence islamique, du droit musulman, de la spiritualité et du dialogue interreligieux. Son intervention va être autour des facteurs éthiques et sociaux dans la finance islamique entre théorie et pratique. Avec nous aussi ce soir, le Cheikh Abdelrahman Belmadi, qui est professeur de théologie et de droit musulman à l'Institut Razali des formations des imams, à la Grande Mosquée de Paris, et responsable de site des Azahira, donc qui regroupe les chouyoukhs de Azhar en Égypte, et de Rayahin, auteur aussi de pas mal de publications et de recherches sur le droit islamique, et il est diplômé en économie. Son intervention sera le développement dans l'économie islamique, Tanmiya fil islamique, donc le modèle économique islamique peut-il être une alternative durable? Quels obstacles et quelles perspectives? Donc enfin, on a Monsieur Kader Merbouh, que vous connaissez tous, hein, qui est le président fondateur de l'association Finequity, qui est un groupe de réflexion sur la finance éthique, regroupement des professionnels de la finance, de la sociologie et de la communication, qui est consultant en banque d'investissement. Donc son métier, c'est effectivement la finance de marché, diplômé en finance de marché. Il est aussi cofondateur et coordinateur de la première formation en finance islamique en France. Son intervention donc va être la comparaison entre l'ISR, l'investissement socialement responsable, et la finance islamique, les régulateurs dans le marché de la finance islamique, donc le Sharia Board et ses problématiques. Donc je laisse la parole tout d'abord à Monsieur Daniel Roussange, Sidi Abdelhak, qui est président de VSMF et qui va nous présenter, nous dire quelques mots sur CIMEA, donc le centre euro-méditerranéen de l'islam aujourd'hui. Donc je lui laisse la parole avant de donner la parole au conférencier.
Bonsoir. Donc CEMIA qui porte un peu cet événement ce soir, ce débat autour de la finance islamique, et heureux de vous accueillir et de partager ce début de soirée avec vous. Je vais rapidement vous présenter donc CEMIA, qui est le Centre euro-méditerranéen d'études de l'islam actuel, sur l'islam actuel. Je répète, c'est le Centre euro-méditerranéen d'études de l'islam actuel, CEMIA. Donc je voudrais vous dire deux, trois mots rapidement pour laisser la place à nos conférenciers sur les objectifs et les buts de ce centre. La première chose et le premier objectif, c'est de créer des passerelles et des points de confluence entre les civilisations dans le contexte actuel. Sa démarche s'inscrit dans une démarche de partage, dans le sens de complémentarité et des civilisations musulmanes et occidentales. Loin donc, et à l'opposé, pourrais-je dire, de toutes ces logiques de choc civilisationnel qui ont fait grand bruit ces dernières années. CEMIA donc s'inscrit dans l'esprit de la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone en novembre 1995, qui a marqué le point de départ du partenariat euro-méditerranéen. Et nous, plus particulièrement, nous nous intéressons du volet culturel, si vous voulez, qui concerne le rapprochement entre les peuples au moyen d'un partenariat social, culturel et humain, qui vise à favoriser la compréhension entre les cultures et les échanges entre les sociétés civiles. Ensuite, CEMIA se propose donc d'étudier l'espace euro-méditerranéen dans une approche pluridisciplinaire, notamment en relation avec les populations musulmanes qui sont devenues une composante importante de l'espace européen. J'ajoute qu'il s'agit toujours d'établir une médiation où se transforment les distances culturelles, objet de tant de peur. CEMIA veut aussi travailler à l'émergence d'un islam du juste milieu, qu'on appelle comme ça en référence à l'expression coranique, la communauté médiane, Matan Wasatan, et cet islam du juste milieu, qui est l'islam porteur des valeurs humaines et universelles, ayant vocation à féconder le dialogue et les rencontres entre les cultures et les religions dans un esprit de respect, de reconnaissance mutuelle et dans l'affirmation des valeurs de paix et de solidarité. Le centre souhaite encourager aussi de nouvelles réflexions et de nouvelles expressions relatives à la pluralité culturelle et religieuse, aux mobilités migratoires et aux réalités modernes de la société. Pour tout ceci, évidemment, il nous faut des moyens, et nous espérons donc, et nous employons à réaliser nos objectifs à travers un certain nombre de manifestations, dont celle de ce soir, qui est évidemment sur la finance islamique, et ceci aussi en raison de l'actualité et de l'intérêt que tout subitement, depuis un an, depuis exactement, pourrions dire, novembre 2007, depuis l'intérêt que la finance islamique prend. C'est-à-dire c'est quelque chose de très très récent. Donc Semia organisera des colloques, des débats, des rencontres, des manifestations artistiques, des rencontres culturelles et interreligieuses, évidemment, et aussi, pour accompagner tout cela, des publications sur l'islam dans l'espace euro-méditerranéen. Nous espérons avoir des publications aussi de bonne qualité scientifique. Enfin, la dernière chose que je voudrais souligner, c'est la vocation que nous voulons nous donner à créer des partenariats avec des institutions scientifiques nationales et internationales, comme nous venons de le faire ou nous l'avons fait, par exemple, à titre d'exemple, avec l'université de Padova en Italie, qui est, pour préciser, l'université de Venise, qui est une université prestigieuse. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous souhaite donc d'apprendre beaucoup de choses. Bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chers amis, mes chers frères, je suis très content de me joindre à ces chercheurs éminents de la finance islamique. Parce que j'ai travaillé beaucoup sur la sociologie des religions, sur le soufisme, sur la sociologie de l'islam. Et j'ai fait une thèse sur le droit musulman au Maroc, oui. Et sur la finance aussi, sur la maîtrise d'ouvrage. Et balle 2 aussi. Donc, c'est pour cela, donc, grâce à l'effort de tous les frères ici, les amis, donc, de me pousser aussi, moi, de me joindre à ce cercle de réflexion. On veut que ce cercle de réflexion ne soit pas étroit, mais on veut l'élargir, qu'il ne soit pas seulement entre les spécialistes financiers, donc juristes et savants. Mais aussi, il faut l'élargir pour partager ce savoir et sur la finance islamique. C'est vrai, il est important de dire aussi que c'est une bonne occasion aussi de changer les idées sur l'islam, les idées stéréotypées sur l'islam, des clichés aussi, un islam de violence, d'intégrisme, pour dire l'islam, elle est là, en Occident, elle est en train de contribuer, de participer, grâce à cette interaction entre l'islam, musulman chercheur, entre la finance islamique et entre l'ingénierie financière pour le bien-être de la société et pour l'épanouissement de la société étant comme musulman français musulman. Donc l'islam, toujours... repose comme religion sur la recherche ou bien le respect de tout ce qui est donc le bien-être et la prospérité des individus. Ça, c'est important, mais c'est pas au détriment de l'intérêt général et de la société. Moi, donc, je vais parler de la dimension éthique dans la finance islamique. Entre théorie et pratique, donc je vais aborder dans mon exposé les principes fondateurs de l'économie musulmane, sachant que on entend beaucoup parler de l'éthique, mais c'est-à-dire il est difficile de passer de la théorie à la pratique pour montrer là où on voit plus, c'est-à-dire les valeurs et la valeur ajoutée de l'islam par rapport à ça. Donc je vais parler de l'obligation musulman de se soumettre à Dieu et à sa volonté, la globalité de l'islam, l'équilibre entre l'aspect matériel et l'aspect spirituel, la justice sociale, la responsabilité de l'homme, et un deuxième volet, l'éthique des affaires en islam, la nécessité donc de la présence d'un consentement mutuel, le devoir d'équité et de justice, le devoir de bienveillance, l'interdiction de transactions portant sur des éléments prohibés, l'interdiction du riba et l'interdiction du harat. Et finalement, je vais donc conclure avec, donc, en parlant un peu de... Sachant qu'il y a notre collègue qui va parler de fonds éthiques. Donc je vais parler du fonds éthique et dans les affaires économiques. Donc je voudrais commencer par parler de l'éthique en islam. L'éthique en islam a une place très importante, centrale, sachant qu'il fait partie de l'objectif, la prophétie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, a été envoyé pour parfaire la noblesse de comportement. Donc, c'est important que, c'est-à-dire, l'éthique joue ce rôle central et important, soit dans la relation culturelle, ou bien la relation des individus entre eux. Donc, il a été dit donc, par le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, la religion est entièrement le comportement. Et aussi, dans un autre hadith, le prophète a dit « Crains Dieu où tu sois et fais suivre une mauvaise action par une bonne et l'effacera et use de bon comportement avec les gens. » Je voudrais bien signaler ici que use de bon comportement avec les gens, c'est-à-dire l'islam, il nous demande d'avoir un bon comportement, pas seulement avec la communauté musulmane, mais avec tous les gens, sans quelle que soit leur religion, quelle que soit leur ethnie. Donc c'est très important de le dire. Parce que donc la religion musulmane, c'est une religion de miséricorde. Dans le Coran a été dit, Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, on t'a envoyé comme une miséricorde pour l'univers. Donc c'est important. Donc pour dire, donc l'islam jamais était une religion de violence, ou bien qui néglige les autres, ou bien qui aime pas le bien pour les autres. Donc aussi, je voudrais illustrer aussi par un autre hadith l'importance de l'akhlaq. Donc l'akhlaq, un hadith qui a été rapporté par Aïcha, il a dit que j'ai entendu le messager de Dieu dire « Le croyant atteint par son bon comportement le degré de celui qui jeûne toute l'année et celui qui invoque Dieu toute l'année. » Donc ça montre l'importance de bon comportement et de bel agir dans la religion musulmane. C'était le cas aussi, il ne faut pas négliger les autres religions monothéistes, aussi qu'il insiste sur le bon comportement, sur le bel agir, la recherche de la paix donc intérieure et cette paix qu'on doit partager avec toutes les créatures et la justice, l'égalité. Tout ça, c'était donc l'objectif de la prophétie et de toutes les religions monothéistes. Mais qui est le responsable de ce bon comportement et ce akhlaq? Et là, l'akhlaq, moi, je ne vais pas donc... Est-ce qu'on peut la traduire par l'éthique? Je vois l'éthique, c'est les règles normatives. Les règles normatives, c'est des règles donc citoyennes qu'on peut tout... Mais l'akhlaq, c'est quelque chose... Il y a ce côté de règles normatives, mais un autre volet qui est cette dimension intérieure spirituelle qui oriente le comportement, qui n'est pas fragile devant la séduction à la matière et à la richesse. Donc c'est ce qui est important. Donc c'est pour cela l'équilibre entre le matériel, c'est le côté matériel et spirituel, il est important pour réaliser le bien-être. C'est pour cela a été dit par mon frère. Donc on vous a fait de vous une communauté de juste milieu. C'est important donc, d'équilibrer entre le côté matériel et spirituel. Et malheureusement, on vit actuellement avec la mondialisation donc une hégémonie de la consommation et l'être humain il se trouve comme une marionnette, donc consommer. Donc, et tout ça donc, sans référent. Spirituel et là parce que pourquoi ça? Parce que l'être humain donc a une double nature, un côté qui est donc représenté par le corps et accessible par les sens, les cinq sens et la raison, et un autre monde qui est le monde intelligible, invisible, alam al-ghaib, al-ruh, qui est accessible par quoi? Représenté par l'esprit dans le sens de l'âme, de ruh, donc il est accessible par le cœur. Et là, dans ce monde matériel, on exclut sa dimension intérieure qui est le cœur. en se référant à un hadith qui dit, pour montrer, illustrer l'importance du qalb, la chair humaine, c'est pas la chair humaine, mais sa subtilité humaine. Alors, il n'a fait cette démodra, il a salahat salahat le jasad kullu, ou il a fait cette jasad, le qalb. Donc, il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est corrompu, tout le corps devient corrompu, c'est les seins, tout le corps devient sain. Donc, le corps est cette dimension spirituelle qui oriente l'importance, surtout dans ce monde actuel du XXe siècle, de l'hégémonie de technologie, de la consommation, comment l'être humain il peut réaliser cet équilibre entre l'aspect matériel et l'aspect spirituel. Donc, le Coran, l'être humain, qui a sa double composition, double nature, donc il est toujours sous la menace de son âme charnelle. Donc, c'est un âme charnelle qui prompte le mal. Donc, il essaye de l'orienter vers le mal parce que dans sa composition terrestre, il va vers ce bas monde, ce monde terrestre de désir, de séduction, de passion. Donc, sachant dans la composition, il y a aussi, je ne vais pas faire un cours sur la psychologie spirituelle, ça peut être pour une autre fois, mais pour dire, donc il y a tendance toujours d'aller vers, c'est-à-dire le monde matériel. Donc, s'il n'y a pas l'équilibre avec le côté spirituel, il y a tendance de chercher, donc, il devient égotique, il cherche que son bien au détriment du bien des autres. Ça, c'est important de le souligner. C'est pour cela, donc, Allah, le Dieu, donc, a karama, donc, il a honoré l'homme, l'être humain, par le dépôt, l'amana, le dépôt, donc, et les mandataires, il est son successeur sur terre. Mais est-ce que l'être humain, si c'est le défi, doit être l'homme, avec un grand H, est-ce qu'il va être à la hauteur de cette mission noble sur terre? Parce que, sachant que cette âme charnelle, qui peut être devenir aussi par la vocation se référer au spirituel, et pour, c'est-à-dire une âme apaisée. Donc apaisée, donc qui cherche. Donc quand le bien et la paix est instaurée à l'intérieur, donc l'extérieur reflète l'intérieur. Donc toujours il y aura le bel agir, il y aura donc le fait de produire que le bien. Et aimer le bien pour tous les créatures. Donc, l'homme a cette importance sur terre comme successeur. Donc, comme successeur, comment il va gérer, comment il va être juste, comment il va chercher l'égalité, comment il va avoir des qualités nobles pour bien gérer l'univers, exploiter bien l'univers. Parmi les principes fondamentaux, fondateur de l'économie musulmane, il y a le Coran, il y a la Sunna, qui sont les sources du droit musulman, en même temps qu'il indique les obligations spirituelles de l'homme, tous les cinq piliers, vous les connaissez, donc prière, zakat et tout, donc pèlerinage, et le jeûne, traite aussi les aspects de la vie économique, que ces aspects soient relatifs à la thésaurisation, à l'investissement, aux dépenses et à l'épargne, dans un premier temps, penchons-nous sur les principes fondamentaux du système économique islamique. L'obligation du musulman de se soumettre à Dieu, ça c'est important. Ceci implique les devoirs de l'être humain à l'égard de Dieu et l'univers. L'exploitation des ressources naturelles par l'homme doit correspondre au système des valeurs islamiques qui exclut toute forme de gaspillage et de prodigalité. Donc, Dieu dit dans Sourate Al-Hadid, verset 7, « Dépensez en œuvre charitable les biens dont il a fait de vos bénéficiaires. » Sourate Al-Hadid, verset 7, « Dépensez en œuvre charitable les biens dont il a fait de vos bénéficiaires. » Donc, deuxièmement, la globalité. Donc, la religion musulmane englobe la vie religieuse, la vie spirituelle, cultuelle, ibada, ce qu'on appelle l'ibada, et la vie séculière, mu'amalat, donc les transactions. Donc, une relation verticale et une relation horizontale. L'islam encourage l'homme à poursuivre des activités économiques pour créer la richesse et réaliser son bien-être dans le respect des valeurs morales. L'équilibre dans l'aspect matériel et l'aspect spirituel. Dieu a dit, recherche dans ce que Dieu t'a donné récompense de l'ultime demeure sans oublier pour autant la part de bonheur qui te revient ici-bas. Sourate 28, Al-Qasas, verset 117. Plusieurs versets coraniques inspirent les bases sur lesquelles doit être fondée l'organisation des activités économiques. L'islam reconnaît donc la propriété donc privée, mais il précise la place et le rôle du secteur public, c'est-à-dire l'intérêt général, et nécessité de garantir l'intérêt général. L'accumulation du capital est permise, mais l'aide aux pauvres est impérative. Donc là, on voit donc toujours un équilibre c'est-à-dire l'épanouissement personnel et en même temps le fait de partager avec les autres. Donc on ne pense pas seulement à soi-même. La répartition des ressources entre capital et travail doit être assurée sur une base équilibrée. L'entrepreneur dispose d'un juste profit, mais il doit payer un juste salaire. La justice sociale, c'est un principe fondamental qui doit être concrétisé dans tous les aspects de l'activité humaine. Dieu a dit dans Sourat al-Ma'ida, verset 42, « Et si tu arbitres entre eux en toute justice, car Dieu aime les justes. » L'islam élève la justice distributive au rang de priorité. Il cherche à travers ce principe à réaliser une harmonie et justice sociale et fait appel pour cela à l'amour et la fraternité. Donc c'est important. Dans un hadith, il dit aussi, donc il a été dit, on est véritable croyant si on n'aime pas le bien à autrui comme on aime pour soi-même. Donc, la responsabilité de l'homme, toute âme est caution des œuvres. L'homme est doublement responsable devant les gens et devant Dieu. Le Coran reconnaît en l'homme un être à la fois rationnel, doté de libre arbitre, ambitieux et moral. Il lui conseille de suivre la voie de la modération pour son propre bien. Le droit musulman définit les droits et les devoirs du commerçant, du créancier, du débiteur, du capitaliste et de l'entrepreneur et du travailleur. Le Coran et la tradition prophétique insistent sur plusieurs valeurs morales, en voici quelques-unes. L'honnêteté et la confiance dans la transaction islamique. Dieu dit « Heureux les croyants qui ont le respect des dépôts qu'on leur confie et sont fidèles à leur engagement. » Sourate al-Mu'minin, verset 8. Le réchelonnement des échéances, ça aussi c'est important. Il est conseillé en matière commerciale et d'endettement général de ne pas exiger la dette à un débiteur si à l'échéance ne peut pas payer. Donc il faut lui réchelonner jusqu'à qu'il puisse la payer. Dieu a dit, c'est votre débiteur et dans la gêne accordée, accordez-lui un délai jusqu'à ce qu'il puisse se libérer. Il serait toutefois préférable pour vous de lui en faire remise, si vous connaissez mieux votre intérêt. Surat al-Baqara, verset 280. Le respect d'autrui, ça aussi ça fait partie donc des valeurs éthiques. Le respect d'autrui, il est primordial de ne pas porter préjudice à autrui de quelque façon, que ce soit dans les relations économiques, pour éviter ce genre de préjudice, fraude, vol, monopole, prix élevé, et spéculation malsaine. Donc les musulmans ont institué un système de contrôle qui s'appelle l'hizba. L'éthique des affaires en islam. Afin de réglementer l'économie islamique et inscrire les affaires dans un cadre à la fois juridique et éthique, les savants musulmans ont défini des notions essentielles. En voici quelques-unes. La nécessaire présence du consentement mutuel. Donc, la première partie, c'est une partie, c'est-à-dire par rapport au comportement de l'individu, par rapport, c'est-à-dire les qualités qu'il doit avoir. Et maintenant, c'est la relation, dont, c'est-à-dire l'éthique ou bien le comportement qu'il doit avoir dans ses transactions avec autrui. Le consentement des parties contractantes constitue le fondement même de la validité des opérations commerciales pour qu'il y ait un consentement réel de part et d'autre. Il est notamment nécessaire qu'aucun des contractants ne profite des éventuelles difficultés financières de l'autre en le contraignant à accepter une transaction. que chaque contractant fasse preuve d'honnêteté, de franchise et de droiture envers l'autre. Le devoir d'équité et de justice. Toute forme d'injustice et d'abus est sévèrement condamnée en islam, en vertu du devoir de justice et d'équité dans les opérations de financement. Le risque doit nécessairement être partagé entre le détenteur de fonds, l'investisseur, et l'utilisateur de ces fonds, l'entrepreneur. Ce principe d'équité, le partage du risque et du profit, nous le retrouvons dans trois types de contrats. Peut-être qu'il y aura d'autres. Donc mes collègues, ils vont donc expliciter les trois donc de contrats de dans la finance islamique, le Musharaka. Donc, dans le Musharaka et dans le Mudaraba, je ne vais pas expliciter le Murabaha, il y a un partage du risque. Soit dans le Musharaka, c'est-à-dire chacun y participe dans un. Donc, la banque qui donne s'associe avec son client, avec le capital, et l'autre participant par les ressources humaines, par le travail. Donc, ils partagent tous les profits et les pertes. Aussi pour le Mudaraba. Je vais passer. Le devoir de bienveillance. Dans le domaine de transactions, comme partout ailleurs, l'adoption d'une attitude bienveillante constitue une source importante de mérite et récompense pour le musulman. C'est en vertu de ce devoir bonté qui est notamment recommandée. Donc, au vendeur d'accepter de revenir sur la transaction conclue lorsque l'acheteur regrette celle-ci, un droit de rétraction, et au créancier de donner gracieusement un délai de remboursement supplémentaire, au mieux encore d'annuler complètement la dette, si c'est possible, à son débiteur lorsque celui-ci se trouve dans la gêne et éprouve des difficultés pour honorer ses engagements. L'interdiction des transactions portant sur des éléments prohibés. Avant de s'engager dans un contrat commercial, le musulman doit s'assurer que l'objet de contrat est licite. Ça, c'est important. Il faut toujours vérifier. Donc, il lui est ainsi interdit d'investir dans les activités des jeux de hasard, les casinos, d'investir dans tout ce qui est la viande non halal, et tout ce qui est le porc, et tout ce qui est donc alcool, et dans l'industrie cinématographique, et spécialement, en général, spécialement dans la pornographie en particulier. Donc, l'interdiction du riba. Donc, en droit musulman, sachant donc le riba, donc dans tout. Les religions a été dit donc que c'est le riba, l'intérêt est interdit. Sauf, et ça reste à vérifier, donc il y a par nos frères juifs, la question de est-ce que le riba elle est interdit contre juifs seulement. Donc dans le christianisme, elle est donc interdit riba, dans le judaïsme aussi, mais est-ce que c'est entre. Moi, d'après ma connaissance, entre juifs, il est interdit, mais est-ce que, c'est-à-dire, à l'extérieur du cercle des communautés juives, est-ce que c'est interdit ou non? Donc, c'est reste à. Donc, plusieurs versets qui parlent de ça, qui est interdit au riba. Ce que vous donnez, Allah a dit, donc, ce que vous donnez comme usure pour accroître les biens des hommes ne croîtra pas chez Dieu. Il y a un autre, donc il y a à peu près 8 versets donc coraniques qui parlent de l'interdiction du riba, de l'usure. Dieu a permis la vente, il a interdit l'usure. Donc en droit musulman, le terme de riba désigne l'avantage qui est perçu par l'un des contractants sans contrepartie acceptable et légitime au point de vue de la charia. C'était le surplus donc concret perçu lors des échanges directs entre deux choses de même nature. Il y a un autre, ce type de riba, quand il s'agit de choses de même nature, soit des aliments, soit de je rajoute quand je vais donc rembourser, s'appelle riba al-fadl. Donc, l'objectif que le riba est interdit en islam, et ça, c'est le côté éthique qu'il faut montrer, c'est-à-dire que cette notion d'interdiction, il puise dans le droit musulman de la justice et de l'égalité. parce que donc entre les parties contractantes, parce que donc il y aura toujours donc des parties qui vont être donc qui vont ça va être c'est-à-dire un déséquilibre, le riba, ça va être au détriment des pauvres et des démunis. Donc, notion qui constitue les deux aspects d'une finalité supérieure exprimée par le Coran. Donc, dans Sourate Al-Hashr, éviter que le bien ne circule exclusivement entre les riches. Donc, j'arrive donc au dernier dans l'interdiction aussi de gharar. Le gharar qui est bay' al-gharar. Donc, c'est qu'il y a une transaction qui renferme un flou ou bien non négligeable. Donc, le musulman doit se garder d'adopter une attitude ou de faire une action qui aurait pour conséquence d'entraîner des tensions et des conflits au sein de la société. C'est notamment le cas lorsque la vente porte sur une marchandise qui n'est pas déterminée de façon précise, lorsque la transaction est conclue sans que le prix de la marchandise ne soit fixé de façon claire, et lorsque la transaction porte sur une marchandise déterminée que le vendeur ne possède pas encore. Le retour de l'éthique dans les affaires économiques. Depuis maintenant à peu près 10 ans, le marché de l'investissement socialement responsable et de la finance éthique en général est en plein croissance. Le principe de responsabilité a désormais toute sa place dans le contexte économique actuel. Aujourd'hui, l'éthique des affaires est appliqué dans les entreprises et contribue à l'essor du monde plus respectueux de la dignité humaine et de l'environnement. La promotion des droits humains au travail fait partie des principes fondamentaux donc de l'investissement dit éthique. La liberté d'association et la reconnaissance effective de droits à la négociation collective, l'élimination de toute forme de travail forcé ou bien obligatoire, imposé, la maltraitance par exemple, et aussi donc l'abolition effective du travail des enfants et l'élimination de discrimination en matière d'emploi et de profession. À la base, tous ces fonds d'éthique qui sont des éthiques, des fonds religieux. Les critères communs aux deux référentiels, soit les donc l'islamique ou bien les éthiques socialement responsables. Les investissements doivent être au service des hommes et contribuent au développement durable. On retrouve également dans les deux référentiels le recours à des critères extra-financiers de sélection des titres et les fonds doivent être des outils de partage et de finances solidaires. Les spécificités du référentiel islamique, de grandes typologies de critères constituent dans leur déclinaison des fondements majeurs de modèles financiers islamiques. Les critères d'exclusion stricts qui englobent principalement l'interdiction du secteur d'activité comme l'alcool, comme on a été cité au début, les jeux et l'intérêt. L'interdiction formelle des contrats ou autres échanges comportant du gharar, un alias démesuré au maïsé spéculation. Les critères de promotion qui constituent l'une des principales innovations de la finance islamique, on y retrouve la nécessité, un adossement des investissements à des actifs tangibles, le nécessaire partage des pertes et des profits entre toutes les parties au contrat, l'obligation de zakat, impôt rituel et la purification du revenu. Pour conclure cette intervention modeste, nous proposons de nous arrêter succinctement sur deux problématiques qui touchent la finance islamique, qui nous paraissent indispensables au développement de la finance islamique. Il s'agit de la standardisation des produits et du référentiel, ainsi que le développement de la formation. La standardisation doit se structurer à deux niveaux, au niveau de la comité de suivi, ou bien comité sharia, ou comme on dit en anglais sharia board, le fait que chaque banque ait son propre comité sharia, amplifie le manque d'uniformité. Ça reste à voir et à vérifier. Donc, en France, les charia à bord sont en train de se constituer. Ce n'est pas encore le cas. 2, 3 s'autoproclamer, mais c'est-à-dire le temps qui va vérifier cela. Une telle situation génère un manque d'efficacité et de cohérence dans toute l'industrie de la finance islamique. Au niveau des institutions, les organisations de type AOIF, the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution of Bahrain, ont apporté une contribution significative en termes de normes standards comptables. Donc, le deuxième volet, pour finir, le développement de la formation. La France a du retard à rattraper, donc, est devenu donc nécessaire la formation majeure pour les institutions islamiques qui manquent de spécialistes compétents et la création qui ont une double formation. La création de produits financiers islamiques exige une double compétence, à la fois dans la sphère financière, mais aussi dans le domaine de l'interprétation de la charia. De considérables efforts doivent être rapidement faits dans ce domaine. Et j'espère aussi que la finance islamique va contredire ce qu'on a été dit sur le choc des civilisations de Samuel Huntington, que la finance islamique soit un moyen dans son interaction de démentir ça. Je vous remercie.
Merci à Mollet Mollet pour cette intervention effectivement riche de sagesse et d'éthique. Effectivement, ça montre ce que l'intelligence dans le sens spirituel peut apporter à la finance. Je signale au passage qu'effectivement Mollet Mollet est aussi diplômé d'économie intelligente, donc à l'école de guerre économique. Donc effectivement, l'intelligence dans le sens basé, alors la clairvoyance, pour essayer de voir la finance sous son angle éthique, sous son angle au service de l'homme et dans le respect des droits et dans le respect de l'environnement qui est effectivement le dépôt sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je donne la parole à Moula Sidi Abdurrahman qui va nous parler de l'économie islamique et son rôle dans le développement. Sachant que, pour vos questions, donc à la fin, il va y avoir un débat ouvert, donc vos questions seront les bienvenues, donc à la fin.
Bismillahirrahmanirrahim. Salat wa salam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Chers frères, chers sœurs, salam alaikum. Bonsoir. C'est un grand honneur de m'adresser à vous, de participer avec nos frères. Je suis très honoré d'avoir ces démonies, avec toute l'équipe qui sont là. Donc le sujet, bien sûr, c'est l'économie islamique et la question du développement économique. C'est un sujet un peu vaste, donc très vaste. D'ailleurs, le sujet de l'économie, le développement déjà, c'est un gouffre. Hein. Maintenant, les grands spécialistes, c'est le cœur de l'économie. Hein. C'est le nœud, on va dire, du problème. Je ne vais pas revenir sur ce que Sidi Mounir a très très bien détaillé sur les bases, barakallahu fi, de l'économie islamique. Sont étalés tout au long du Coran, de la Sunna. On a une richesse, on a une matière première extraordinaire, surtout ce que nos grands savants, que ce soit de l'exégèse du Coran, savants de la Sunna, ou bien aujourd'hui, même à travers l'histoire, ceux qui ont écrit dans la finance. Hein, les musulmans n'ont pas attendu le XXe siècle pour écrire dans la finance. Malheureusement, dans les universités, on n'enseigne pas cela, non seulement dans les questions de finances, quand on parle de l'histoire de la pensée économique, on saute 8 siècles de pensée. C'est comme s'il y avait un gouffre dans l'histoire de l'humanité. Il n'y avait jamais eu une production, c'est-à-dire de l'humanité, sur les questions, que ce soit économique, financière ou de philosophie ou de sociologie. On en parle rarement dans les universités, soit à Dauphine, à Tolbiac ou à Paris 13, etc., d'un certain Maqrizi ou bien certains. Chantibi, ou bien on n'entend pas parler d'eux. Heureusement, aujourd'hui, avec cette crise aujourd'hui, qui fait entre guillemets appel à la finance islamique, c'est une grande bouée de sauvetage. Alhamdulillah, on est là, on a notre mot à dire. Donc, revenons au sujet. Comme l'a dit Sayyidi Mounir, avant de parler d'une chose importante, comment peut-on parler d'économie islamique? Il y a un problème chez quelques penseurs, quelques personnages qui leur paraît un peu bizarre qu'une religion parle d'économie. C'est une chose, c'est une question à qui nous devons répondre. On ne peut pas parler directement de banque ou de la finance islamique sans parler de l'économie islamique, puisque la finance et la banque islamique, ce n'est qu'une partie de l'économie islamique. Donc, vous avez bien entendu quelques principes fondamentaux, fondamentaux, les principes fondamentaux de l'économie islamique. C'est une économie quand même qui a existé, qui a géré le monde pendant 8 siècles, qui était maître du monde pendant 8 siècles. On ne gère pas un empire sans des théoriciens, sans des spécialistes en finance, en stratégie, etc. L'homme est le viscère, comme l'a dit mon frère, d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Alors, en tant que musulman, est-ce que l'islam est un courant? L'homme, en dehors des religions, il a produit des idées en philosophie, il a produit des idées en économie, etc. Comment un musulman peut parler d'économie? Il va se baser sur quoi? L'homme libre, entre guillemets, libéral, tel que Adam Smith, tous les classiques, les néoclassiques, les quinzaines, les monétaristes, tous ceux qui l'ont suivi, ils ont produit, ils ont donné des théories, etc., en se basant sur leur intellect, l'aql, hein, sur leur intellect, sur les philosophies qui les ont précédés, se sont inspirés sur des théories, sur de la morale, etc., sur des expériences. Un musulman va se baser sur quoi? Il a un repère important, à savoir Al-Qur'an, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les paroles et les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il a autorisé, si vous voulez, c'est une sorte de commentaire. Le Coran al-Karim, bien sûr, tout cela expliqué par des grands spécialistes de l'exégèse et de la Sunna qui nous expliquent qu'est-ce que c'est que les commandements, comment Allah azzawajal nous a donné un code de la route à partir duquel nous allons fonctionner, nous allons marcher sur terre. Parce que finalement, on revient à une blague, qui c'était une blague, mais maintenant ça devient une réalité, que l'homme a su marcher sur la Lune, mais il ne marche pas très bien sur Terre, apparemment. Parce qu'aujourd'hui, la crise qu'on assiste aujourd'hui, excusez-moi, on ne peut pas la laisser passer comme ça. Quand vous avez 7 ou 8 personnes, 7 ou 8 grands milliardaires du monde, parmi les 30 qui se suicident, ce n'est pas rien. Quand on nous présente les meilleurs spécialistes de la finance, du jour au lendemain, ils deviennent les plus grands bandits. Quand on nous montre à la télévision, c'est pas rien. Quand vous avez des centaines de milliers de personnes qui sont mises à la porte, c'est pas rien. Quand vous avez des dizaines d'entreprises qui sont cotées dans la bourse de New York ou bien en France ou bien en Angleterre, qui chutent du jour au lendemain, c'est pas rien. Donc nous sommes devant une crise importante, très importante, et nous devrons poser des questions fondamentales. Comment ces gens-là qui nous parlaient de la moralité, le mot moralité qui était un mot, on va dire, péjoratif, les gens qui nous montraient du doigt, ces gens qui veulent réguler le marché, ils nous parlent, ils disent, attendez, laissez faire, laissez passer, vous n'avez pas le droit de faire des barrières, il y a la main invisible, Adam Smith a parlé de la main invisible, le marché se régularise tout seul. Aujourd'hui, on assiste à ces mêmes personnes qui font appel, qui disent, non, attention, il faut revenir, il faut réguler le marché. Mais à partir de quoi? Qui va réguler le marché? À partir de quelles idées? Qui décide de quoi? Ça, l'islam, l'islam a toujours dit qu'on ne peut pas laisser la liberté absolue à l'homme, il lui faut des garde-fous. Donc, je passe rapidement que l'homme, bien sûr, il n'est pas propriétaire sur cette terre, il n'est qu'un gestionnaire, il n'est pas propriétaire, il n'a pas le droit de faire de cette terre ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a précisé mon frère qui m'a précédé, de toute façon, mon sujet, il est complémentaire avec celui de Sidi Mounir. Donc Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, il nous renvoie à ces créatures. Il a parlé dans 300, 400 versets de la terre, il a parlé des cieux, il a parlé de l'eau, il a parlé des animaux, il a parlé de l'homme. Tout est dans l'homme, c'est-à-dire l'homme est le sujet central de la question de l'économie, de la philosophie, de la sociologie, de toute la pensée en islam. Toute chose devrait servir l'homme et non le contraire. Malheureusement, on a assisté à cette bulle financière qui est devenue un objectif. L'homme est devenu, c'est un moyen au service de cette bulle financière. C'est ça notre problème aujourd'hui, c'est où se situe l'homme dans cette crise financière. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous renvoie à « Fala yandhuruna illa al-ibli » continue, ne voit-il pas les chameaux, ne voit-il pas les cieux, ne voit-il pas l'eau? Cela, il nous renvoie à voir sa créature et attention, je n'ai pas créé ces créatures-là en abondance pour rien. Il y a des objectifs derrière tout cela. Cette créature, il faut la respecter. L'homme, il a un rapport très important avec Dieu, bien sûr, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a la croyance qui est quelque chose de fondamental, mais à partir de la croyance, il a aussi le rôle de l'adoration qui est un objectif aussi très important. Il a un autre rôle, c'est sa relation avec son frère, l'homme. Ensuite, il a sa relation avec la nature. tous les versets et les hadiths où Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie, il parle de l'eau, il parle des animaux, il parle de la mouche, il parle de l'abeille. Tout cela pour nous dire, attention, ce sont des créatures, il faut les respecter. Attention, le gaspillage, c'est quelque chose d'interdit. Il faut gérer la matière, il faut rentrer en harmonie avec la nature. Il ne faut pas prendre le risque d'être au-dessus de cette nature, mais il faut que l'homme soit une partie de cette nature. Il faut qu'il se comporte en harmonie avec cette nature, en harmonie avec l'argent, en harmonie avec sa spiritualité, comme l'a dit mon frère. C'est très important parce que s'il n'y a pas de garde-fou, l'homme peut tout faire. Comme on l'a vu aujourd'hui, la crise économique, elle est parlante. Les grands principes, les grands objectifs de l'économie islamique, ils ont été dits, c'est la justice socio-économique et le bien-être. Ça, ce sont des grands objectifs. Qu'on ne nous dise pas que toutes les théories économiques, que ce soit de l'époque de Adam Smith jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler, les spécialistes qui ont fait de l'économie connaissent très très bien cela. Toute théorie économique, c'est un modèle de développement. Ce n'est pas les gauchistes, parce qu'on a parlé de développement après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il a fallu construire quand même ce que l'être humain a détruit, il a fallu des plans Marshall, etc. Mais, à vrai dire, en vérité, toute théorie, c'est une approche de développement. Alors l'islam, bien sûr, c'est une approche de développement. Comment nous allons construire ce développement? Bon, avant de parler des principes de l'islam et quels sont les grands principes, on va dire, de développement en islam, quand même, on revient. Il faut revenir aux racines de la pensée économique, quand même. On nous dit que la pensée économique commence par Adam Smith. Bon, très bien, on commence par Adam Smith, pas de problème. Mais il a parlé de l'équilibre du marché, que le marché s'équilibre tout seul. Donc, bien sûr, à travers le temps, on a assisté à des crises. L'homme, il se réveille quand il est freiné. Il se dit, il est orgueilleux, il dit que je peux donner des solutions. Il est au-dessus, pour lui, c'est péjoratif d'entendre un verset coranique qui vient lui dire, attention, il est interdit d'utiliser l'usure. Faire le ralal, comme l'a dit mon frère, quelque chose d'interdit. Non, il n'y a pas d'interdit, il faut nous laisser travailler, s'il vous plaît, c'est de l'économie, c'est sur le marché du moment qu'il y a une entente. Bon, mais malheureusement, les crises nous ont prouvé le contraire. Je sauterai directement à la crise de 1930, des années 30. Keynes, il a prouvé que le plein emploi, donc il nous a prouvé que l'équilibre du marché ne peut être en harmonie avec le plein emploi. Ça, il l'a prouvé. Mais avant lui, Ibn Khaldoun, il a parlé de l'intervention de l'État. Pourquoi on n'en parle jamais de ce que Ibn Khaldoun a parlé? Pourquoi on n'en parle jamais de les théories des salaires chez Ibn Taymiyyah? Pourquoi on ne parle jamais de l'intervention de l'État? Et Omar ibn Khattab, qui était le grand calife, quand même, qui détenait un empire extraordinaire. Il va, lui, personnellement, pour regarder l'intervention de l'État, il va au marché, il voit un sahabi, quand même, compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a baissé son prix par rapport à tous les prix qui étaient à Médine, au prix qui était un sahabi qui s'appelle Ibn Abi Balta'a. Il lui dit, ou bien tu vas lever ton prix, qu'il soit au même prix de tous les vendeurs, ou bien tu quittes le marché. Rappelons-le que c'était une situation de famine, donc il y avait une crise, on va dire, entre guillemets, avec le terme moderne, il y avait une crise économique. Donc Ibn Abi Balta'a, c'est un compagnon, il connaît sa marchandise, ce n'est pas une marchandise intéressante, il a fixé un prix en dessous de ce qu'il fallait fixer ce marché-là. Il a pleuré, il a dit, moi je n'augmente pas le prix de ma marchandise. Il y a en islam ce qu'on appelle le juste prix, c'est très important. J'ai fait un débat sur ce sujet-là. Les musulmans ont beaucoup de choses à dire sur toutes les questions de l'économie. Ils ont tout le temps dit, ils ont tout le temps parlé, mais malheureusement, les théories économiques doivent, comme dit Bakr Sadr, rahimahullah ta'ala, doivent trouver un terrain. L'islam, on est heureux que les banques islamiques soient installées dans les pays européens, mais c'est malheureux qu'elles ne soient pas installées, qu'elles ne fonctionnent pas comme il se doit déjà dans les pays musulmans. Il faut un terrain pour que l'économie soit appliquée, comme le communisme n'était pas appliqué en Allemagne. Marx qui a inventé ces idées ont été appliquées dans un terrain. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il faut un terrain pour appliquer des théories. Il ne faut pas qu'elles restent, c'est-à-dire un langue sur des feuilles. Donc je reviens à Ibn Abi Balta'a qui sort du marché, il va en pleurant, il rentre chez lui. Rabbi Ibn Khattab le rejoint chez lui, il lui dit, je suis désolé que tu quittes le marché, mais je ne peux pas, je dois penser à l'intérêt de tout le monde, parce que si je te laisse dans le marché, tu vas casser le marché. Là, un certain Daniel Jimaré, qui est un orientaliste très pointu, très connu, de l'école des hautes études de sciences religieuses à Paris 3, il a malheureusement il a publié un article en parlant des Ash'arites et des Mu'tazilites pour dire, subhanallah, ce sont des courants musulmans qui ont existé 14 siècles avant le communisme et avant le libéralisme. Il dit, voilà, la théorie Ash'arite, c'était une théorie communiste, et la théorie Mu'tazilite, c'est une théorie libérale. Qui est-ce qui a existé avant l'autre? Mais c'est extraordinaire, cette analyse. Donc, personnellement, je lui fais cette réflexion. Je dis, mais attendez, vous auriez dû dire que les communistes se sont inspirés des idées de Mu'tazilite, etc. L'intervention de Omar ibn Khattab, c'était au moment de crise. L'islam, ce n'est pas du socialisme. L'islam, ce n'est pas du libéralisme. L'islam, ce n'est pas quelque chose qui est entre les deux. Il est propre à lui-même. Ce sont des théories, c'est une pensée, c'est des réflexions. Quand je dis c'est une pensée, je parle de l'exégèse, je parle de la réflexion de l'homme. Les musulmans, ils ont produit beaucoup d'ouvrages qui concernent la finance, qui concernent l'héritage, qui concernent les rapports entre l'homme et l'homme, etc. etc. Bon, on a parlé de Keynes, on a parlé de Adam Smith, on a parlé... L'islam a-t-il parlé, le Coran n'a pas parlé, parce que les théories de développement, elles ont existé, ces théories de développement, elles ont existé, bien sûr, à partir, on va dire, les spécialistes des théories de développement, en général, qui sont de gauche, hein, entre guillemets, dans les années 60, 50, 60, 70, on les entend beaucoup moins vers les années 90, avec la pression qui a été faite par, vous savez, la mondialisation, le monétarisme de Milton Friedman et toute l'école de Cambridge et l'école hollandaise, etc. Ce sont des gens quand même qui ont un peu, on va dire, on n'entend pas un peu ces théoriciens qui ont beaucoup parlé dans les années 70, quand l'URSS était les années 50, fin des années 70. On n'entend pas bien qu'ils écrivent, ils existent. Mais c'est très important de voir ce qu'ils disent, ces gens-là, ces grands spécialistes de développement, qu'ils nous proposent des modèles de développement qui ne sont pas des modèles de développement libéraux. Alors, tenez-vous bien, tous sans exception, je prends un exemple juste de deux pays, je prends ce que produit l'École des hautes études en sciences sociales dans différents ouvrages, dans la revue, et ce que produit l'IED, qui est un institut très spécialiste dans l'économie de développement à Genève. Tous ils disent clairement dans leur publication, on est dans l'impasse. On est dans l'impasse, on n'a pas une solution à toutes ces crises, on n'a pas un modèle fiable. Le Fonds monétaire international, il a sa recette pour les pays sous-développés, la Banque mondiale aussi. Et ces théoriciens aussi, ils ont essayé de donner des recettes aux pays sous-développés. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ces pays-là ne se sont pas développés? Ce sont des élèves, on va dire... très sérieux, ils ont suivi les recettes du FMI, ils ont suivi les recettes de la Banque mondiale, ils ont suivi les recettes en Algérie, par exemple l'industrie industrialisante, hein, les spécialistes connaissent cela, ça n'a pas mené à ce qu'ils pensaient. Hein. Jacques Ostruy, on en a parlé, Malik Benabi, on en a parlé. Donc il y a un problème fondamental dans la pensée humaine, on est obligé, nous devons quand même, on a droit, au moins on a droit en tant que musulmans de dire notre mot, du moment que la pensée humaine elle est dans l'impasse. Enfin, donc, pour nous musulmans, le mot développement, bien sûr, c'est un mot nouveau, mais est-ce que le sens de ce mot-là a existé dans le Coran ou de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous trouvons le mot al-amran, ou bien al-imara, nous trouvons le mot al-tamkin, nous trouvons le mot al-nama, al-tathmir, thamara. Al-amran ibn Khaldun, on en a parlé, qui veut dire la science de prospérité. Vous savez, la traduction, moi j'ai toujours peur de la traduction, comme on dit, traduire c'est trahir. Marx, il a refusé de traduire le Capital. Il a dit, celui qui veut comprendre mes idées, il n'a qu'à apprendre l'allemand. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais bon, on essaye de rapprocher le sens. Mais faites très attention, chaque pensée, chaque courant, chaque idée, elle a sa spécificité. Il faut essayer d'avoir le sens. Les traductions qu'on a entre les mains aujourd'hui du Coran, par exemple, elles sont pas toutes fiables. Donc, il faut pour comprendre quelque chose, il faut se référer à trois ou quatre traductions. Donc, le mot, on va dire, c'est les sciences de la prospérité, c'est la civilisation, c'est la construction, c'est le progrès. Alors, je vous laisse imaginer cela quand Ibn Khaldun, au moment de la décadence. Attention, quand il a écrit cela, et c'est quelqu'un qui est en dehors de l'histoire. Huntington, il croit qu'il a écrit la fin de l'histoire. C'est quelqu'un, c'est-à-dire, ils ont inventé quelque chose. Je suis désolé, c'est des gens qui ont... Il y a beaucoup de penseurs qui ont pensé au-delà de ce que pense Huntington et ceux qui l'ont suivi. Fukuyama, barakallahu fik. Fukuyama, non. Temkin. Temkin, le mot temkin, on peut le traduire par fortifier, ou bien renforcer, ou bien stabiliser. Quand même, c'est des mots forts utilisés dans le Coran al-Karim et utilisés par la Sunna. Annama, aussi, qui veut dire la croissance, qui veut dire aussi le développement. At-tathmir, ou bien thammara, qui veut dire le rendement, fructifier, accroître sa richesse, etc. Investir son argent, etc. Donc, on a le sens du mot développement, comme on nous présente, les spécialistes de l'économie de développement, existe ce mot-là, puisque les musulmans qui ont quand même été les maîtres du monde à un moment donné, ils ont bâti une civilisation et on ne bâtit pas une civilisation avec un sous-développement. Il faut qu'on soit développé, bien sûr, pas avec des théories contemporaines qu'on entend, qui sont aujourd'hui, on va dire, un peu stickées par des modèles, etc., économétriques, etc., etc. Bon, c'est le progrès, on nous dit, mais le progrès, ce progrès-là, on voit où il nous mène. Hein. Il faut quand même être sérieux. Donc, les principes fondamentaux de l'économie de développement en islam, ils ont été dits, c'est les principes de l'économie islamique. L'utilisation exemplaire des matières premières. L'islam donne une grande importance à la matière première, à la nature. Il faut que l'homme soit en harmonie avec il est responsable, il est gestionnaire, il n'est pas propriétaire. Il n'a pas le droit de gérer comme il veut, sans rapport avec la nature, sans rapport avec son frère l'homme. La priorité du développement, c'est la satisfaction de tout ce qui est nécessaire pour tous les hommes, sans abus et sans gaspillage. C'est-à-dire que l'homme devrait se comporter en harmonie avec l'ensemble, l'intérêt commun, l'intérêt des hommes. Il faut qu'il soit l'objectif. Il ne faut pas que le privé soit maître des lieux, ni que le public voit écraser le privé. Il faut qu'il y ait une harmonie entre les deux. Le développement social... doit être destiné à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'objectif, c'est la satisfaction d'Allah. Bien sûr, un entrepreneur musulman doit chercher le profit. On ne va pas tomber dans le piège du communisme. Attention, vous êtes une entreprise, vous allez travailler à fond la caisse jour et nuit, mais le profit, ce n'est pas pour vous, c'est pour l'État. Ensuite, l'État, c'est qui? C'est telle personne. Donc c'est un grand problème. Donc on revient à la case départ. L'islam ne rejette pas la propriété privée, au contraire, il l'encourage, mais il lui donne une moralité. Cette moralité, elle s'inspire du Coran et de la Sunna. Son objectif, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous avez des gens riches qui dépensent tout leur argent pour une idée, pour l'intérêt, c'est Sidna Uthman ibn Affan qui a fait, c'est Sidna Bokr Sadir, il pense à la vie dans l'au-delà. L'homme aujourd'hui ne pense pas à la vie de l'au-delà. Donc il écrase ses frères. Pourquoi? Parce qu'il y a lui, après il y a lui. Donc la pensée musulmane, c'est une pensée qui démarre de la croyance du Tawhid et de la responsabilité. En tant qu'homme, vous, on est responsable. Nous n'avons pas le droit de nous comporter comme si on est les seuls sur cette terre. Les grands objectifs, donc, c'est l'utilisation équilibrée afin qu'il y ait une harmonie, une satisfaction d'Allah Azzawajal, une harmonie de la société entre le privé et le public. L'objectif premier et dernier du comportement économique sur Terre, c'est l'homme. Donc, la matière devrait être au service de l'homme et non pas le contraire. Aujourd'hui, on assiste à l'inverse. Donc la croyance, c'est le principe fondamental à partir duquel l'homme doit démarrer. Et quand on est croyant, on prend en considération l'autre. On sait qu'il y a une vie dans le-delà. On a des garde-fous qui nous tiennent la route et qui nous montrent un peu le chemin, qui nous disent attention, il y a des interdits, il y a des lignes rouges, il y a des garde-fous, il ne faut pas les dépasser. L'intérêt général de la société, donc l'objectif, c'est, on ne peut pas travailler sans penser à l'intérêt général de la société. Ça, c'est très important. Il y a une question très importante dans l'économie, on va dire, traditionnelle. On nous présente, il y a un grand problème, on est désolé, il y a le problème de la rareté. On ne peut pas satisfaire tout le monde, puisque on est la question de la rareté. L'islam ne croit pas à la question de la rareté du produit ou de la marchandise, etc. Mais il y a une mauvaise distribution des richesses.
Je suis désolé, quand on a des entreprises aujourd'hui qui font des bénéfices extraordinaires, mais qui licencient en même temps leurs travailleurs, il y a un problème. Il y a aujourd'hui, la question des bonus que vous savez, vous avez toujours entendu parler, il faut la remettre c'est-à-dire dans le débat. On ne peut pas, on ne peut pas donner des cadeaux gratuits qui vaut des centaines de milliers de salaires à des personnes, bien qu'ils sont compétents, d'une telle compétence, etc. Et en même temps, on met à la porte, l'islam interdit cela, l'islam régit cela à partir des règles bien écrites, déterminées et tracées avec des lignes rouges. Donc la question de la distribution des richesses, elle est fondamentale. Il n'y a de richesse que d'homme. La richesse, c'est l'homme. En Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki, on a détruit la matière, mais on n'a pas détruit l'homme. Ce qui n'a pas, c'est-à-dire la matière qui a été détruite, tout un pays a été bousillé, il a été rasé de la carte, mais ça n'a pas empêché les Japonais, de ce qu'on appelle d'avoir un décollage économique. 30, 40, 50 ans après, ils sont parmi les pays qui sont à l'avant-garde économique dans le monde. Mais les pays sous-développés, quand on a détruit l'homme, on a interdit à l'homme de s'instruire, là, il n'y aura plus de décollage économique. Non. J'ai pris comme exemple rapidement, parce que les banques islamiques, c'est quoi ? C'est les banques islamiques, la finance islamique aujourd'hui, elle a prouvé l'économie islamique. Un exemple de l'économie islamique, c'est la finance islamique. Elle a prouvé son efficacité, elle a prouvé qu'elle peut être concurrentielle. Et dans cette crise, on nous dit, les grands experts nous disent, dans la dernière conférence, on a ramené des articles des grands experts de la finance, etc., qui nous disent, prenez la leçon de ces financiers musulmans, puisque la crise ne les a pas touchés comme elle nous a touchés nous. Donc il y a quand même quelque chose de très important. Donc l'économie islamique, elle a prouvé son efficacité sur le terrain au moment de la crise. J'ai pris comme un exemple la Banque islamique de développement qui était fondée en 1975. Cette Banque islamique de développement, elle a des valeurs centrales. Ses grandes valeurs, c'est l'excellence dans l'exécution de toutes les activités dans ses relations avec ses clients et partenaires. La réactivité par le contrôle de la performance est une réflexion sur l'amélioration au profit de meilleurs services possibles. L'intégrité en faisant preuve d'un haut niveau de sincérité, d'honnêteté et de justice. L'attachement à servir ses clients avec dignité, détermination, dans l'esprit de créativité, etc. etc. Donc je ne vais pas m'attarder, juste pour dire que l'économie islamique, elle a prouvé sa réalité sur le terrain, mais pour conclure, il y a une chose très importante, je pense que c'est des Mounir, on a fait allusion, c'est que d'habitude, on commence par la théorie, ensuite on va vers la pratique. L'économie islamique aujourd'hui, surtout la finance aujourd'hui, il y a une réalité, mais on a un problème de théorisation. On a besoin de théoriciens. On a une finance qui s'applique, qui va aller très très vite, mais on a besoin de penseurs. On a besoin de former ces financiers sur le terrain. On a besoin surtout de gens, des spécialistes qui vont penser l'économie de développement, parce que quand même, si les spécialistes de l'économie de développement actuellement, ils sont dans l'impasse, nous, en tant que musulmans, on a beaucoup de choses à dire. Barakallahu fikoum, assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Merci au cher Abdelrahman pour cet exposé très enrichissant. Donc, si on peut résumer jusque-là les deux conférences qui se complètent, c'est effectivement, ils ont tous les deux mis l'accent sur des choses importantes, bien qu'évidemment le sujet est vaste. Donc, les interdits en islam ont une logique, la logique saine, ils suivent une logique saine, qui est effectivement l'intérêt de l'humain, parce que la révélation est là pour aider l'humain à arriver à la paix intérieure et extérieure, à arriver à la bonne gestion des ressources dont il est responsable, dont il a parce qu'il est le lieutenant d'Allah sur terre, donc le vicaire, le khalifa. Donc on a vu les principales interdictions, à savoir le riba al-fadl, le riba al-nasi, donc les dettes chargées par un intérêt. Et il est bon de signaler que l'islam ne différencie pas entre le taux d'usure et le taux d'intérêt. C'est la principale différence avec les ISR, les investissements sociaux responsables, que notre frère va nous présenter. Donc en islam, les deux sont prohibés. Alors qu'en France, la loi interdit simplement le taux d'usure et non pas le taux d'intérêt. Donc en islam, les deux sont interdits parce que c'est une injustice. Charger une dette, c'est une injustice. Et Dieu demande, exige aux musulmans de faire ce qu'on appelle un prêt d'honneur, qard hasan. Et c'est Dieu qui donne les mérites de ce prêt. Donc ça, c'est important. L'utilité, les garde-fous donc, de chaque contrat existent. On a parlé aussi de la notion de gharar qui est très importante, qui est primordiale dans la définition de la licéité d'un contrat vis-à-vis de la législation islamique et de l'éthique islamique, et le fait qu'il y a une utilité à chaque fois, que ça soit tourné vers l'homme. Le gharar, donc, on a parlé effectivement du fait de l'aléa, de l'ignorance dans les aspects du contrat, et aussi du fait de vendre ce qu'on ne possède pas, exception faite évidemment du salam, hein, qu'on a développé plusieurs fois, qui a une utilité, hein, qui a une utilité et qui est, on va dire, encadrée par des garde-fous. On a parlé aussi des développements durables. On a parlé aussi dans ces deux interventions des secteurs illicites. Et là, on voit cette grandeur de l'islam qui est le fait d'interdire des secteurs qui aujourd'hui posent problème. La pornographie, les jeux de hasard, donc ce qu'on appelle maïsir, qui portent préjudice à l'humain, que ce soit dans sa gestion de l'argent, c'est-à-dire donc le gaspillage, ou que ce soit vis-à-vis de sa dignité. Le tabac, on voit aujourd'hui tous les débats sur la fumée qui tue, un sur deux qui meurt par le tabac. L'islam a déjà interdit le tabac, les savants musulmans sont unanimes sur l'interdiction du tabac. La drogue évidemment, l'alcool, etc. Donc tout cela effectivement rejoint cette dimension sage de l'islam, cette logique saine de l'islam. Donc, sans interdiction, évidemment, on avait vu la règle juridique qui disait que l'origine des choses est la licéité, sauf s'il y a un texte du Coran de la Sunna qui dit le contraire, ou s'il y a un préjudice subi. Et ça, c'est important. On avait eu aussi, on a parcouru avec Cheikh Berman, donc l'histoire de l'islam à partir de ses contrats, à partir de la gestion de l'argent, du patrimoine. Et quand l'islam, effectivement, l'argent est à Dieu, et non pas à l'individu comme pour le capitalisme, ou à l'État comme pour le communisme, sans renier évidemment la propriété privée, qui est reconnue par l'islam. Mais elle a des limites, et donc la personne qui a une propriété privée, elle est responsable de cette propriété privée pour, évidemment, ce qu'on appelle l'aumône purificatrice légale. Donc, et dans les banques islamiques, on retrouve Beit Zakat, on retrouve Beit Lwaqf, la fiducie islamique, et ça, effectivement, c'est tout un sujet, on ne va pas en parler tout de suite. Et on retrouve, avec Moulay Moulay, on retrouve l'aspect tridimensionnel de l'être humain, donc l'équilibre entre ces trois composants de l'être humain, le corps, le cœur et la raison. Hein, c'est-à-dire le cœur qui est l'esprit, le corps qui est le physique, donc on ne doit pas porter préjudice à notre corps ni à celui des autres, donc ce qui est la sécurité, on va dire, et la raison, parce qu'effectivement, le Coran, la révélation, qu'elle soit chrétienne, juive ou musulmane, elle s'adresse aux gens doués de raison. Ils ne s'adressent pas aux animaux, ils ne s'adressent pas aux objets inanimés. Donc, je passe la parole sans tarder à notre frère donc, Kader, qui va nous parler des ISR. Donc là, c'est une vision plutôt technico-économique des fonds et des investissements socialement responsables. Merci.
Merci de nous avoir invités. En fin de compte, on va diviser notre présentation en deux. Donc moi, je vais parler de Fine Equity et je vais parler un petit peu du panorama de la finance islamique. Et je remercie nos deux intervenants d'avoir mis l'axe sur deux choses qui sont extrêmement importantes, à savoir la formation et les charia board. La formation, je vais y arriver en présentant Fine Equity, et les charia board, on va y arriver après la présentation de Mohamed Issaoui, qui est un éminent membre de Fine Equity, qui va vous présenter un petit peu les points de convergence, les synergies entre l'ISR et la finance islamique. Donc Fine Equity, c'est un groupe de réflexion qui travaille sur la finance islamique depuis plus de deux ans maintenant. Donc on a contribué à confonder une formation en finance islamique de niveau Bac plus 5 qui donne 300 heures de cours et des certificats. On est intervenu à l'université de Strasbourg, à l'université de Toulouse, et on donne régulièrement des conférences dans les instituts de tout type d'instituts. Donc nos objectifs principaux à Fine Equity, dont je suis président fondateur, c'est de promouvoir les finances équitables, éthiques et solidaires, sensibiliser le public aux techniques, orienter objectivement le public, lutter contre l'exclusion et renouer le dialogue social autour de la finance. Donc, je vais attaquer quelque chose peut-être que tout le monde attend. C'est le panorama de la finance islamique en France. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je pense que beaucoup de personnes se posent cette question. Nous intervenons sur les critères extra-financiers, nous allons continuer dessus. Mais je pense que c'est important d'introduire où est-ce qu'en est la France en finance islamique. Il y a des avancées qui ont été exceptionnelles. Je vais vous faire un bref historique, très bref, parce que je me sens toujours menacé par le temps qui me reste. Donc, tout commence, donc Tariq l'a bien dit, avec le discours de Madame Lagarde, ministre de l'économie. Et récemment, 18 décembre 2008, la DGT, Direction Générale du Trésor, a publié des modifications d'ordre fiscal pour deux contrats, Mourabaha et le Soukouk. Donc, le 25 février de cette année, 2009, il y a des rescrits fiscaux opposables qui ont été mis en place pour la Mourabaha et pour le Soukouk. Donc, qu'est-ce qui arrive là en modification législative? C'est la modification de la fiducie, donc pour accueillir un petit peu les opérations d'Ijara, et d'autres, même le WARF également, qui ont été apportés par le sénateur Marini pour le 18 mars 2009. Donc c'est une proposition de modification du code civil. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc vous n'êtes pas sans savoir que l'Europlace, une association pour la promotion de la place de Paris, qui est patronnée par Madame Lagarde une fois de plus, est partie au mois de janvier avec le gouverneur de la Banque de France à Bahreïn voir l'AIFI. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. C'est un organisme de supervision qui a été créé en 1991. On y reviendra tout à l'heure dans le cadre des régulateurs. Donc, ils ont été à Bahreïn. Ils sont revenus avec toutes les normes de l'AIFI à traduire en français pour développer la finance islamique en France. Voilà. Donc, c'est une information qui est publique, qui a été... dite par Madame Darmaillet hier. Donc, je vais y revenir également sur les charia boards, j'y arrive. En France, nous avons trois charia boards. Historiquement, je ne suis pas là pour dire s'ils sont autoproclamés. Mais en tout cas, on en a trois. La CERFI, ensuite, on a Conseil Averroès, et le troisième s'appelle COFIS. Voilà. Ils travaillent tous, je pense, en collaboration. Nous avons trois charia boards en France. Maintenant, il y en aura d'autres, je pense. Il y a beaucoup de charia boards, mais il n'y a pas de banque. Il y a plus de charia boards qu'il y a de banques. Pour être franc, il y a zéro banque. On parle de banque d'investissement qui devait avoir lieu au mois de juin. En fin de compte, au mois de juin, il va y avoir surtout l'émission d'un soukouk. Qu'est-ce qu'un soukouk? C'est une émission obligataire qui respecte les principes de la finance islamique. Donc, vous avez parlé, je ne reviendrai pas dessus. Les sous-jacents, etc., etc., etc. Donc, normalement, ça devrait être émis d'ici à la fin du mois. On parle d'un milliard d'euros. Voilà. Pardon ? Par qui ? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse, hélas. Donc, voilà. On parle d'une banque, on a souvent parlé sur Le Parisien, sur Le Figaro, sur un peu tous les journaux. On a parlé un petit peu de la Qatar Islamic Bank qui viendra installer une banque d'investissement. On parlait de juin, d'autres parlent de septembre. Bon, là, pour l'instant, on n'est absolument pas sûr de ce qui se passe. En tout cas, je peux vous rassurer, il n'y a pas de banque de détail de prévu. C'est-à-dire que pour les particuliers, ils peuvent encore attendre. Ils peuvent attendre pas très longtemps, pour la bonne et simple raison, pour que les porteurs de projets et ceux qui ont un peu d'épargne, il y a une plateforme qui s'est ouverte. J'aime pas... on fait la promotion objectivement, parce qu'on parle de finances islamiques. On parlerait d'autre chose, on va faire la promotion d'autre chose. Mais il y a un site qui s'est ouvert qui s'appelle Islam Angels, qui récupère les projets, ceux qui sont porteurs de projets, et qui récupère les investisseurs. Donc, qui les fait rencontrer sur une plateforme Internet, et ensuite, qui sont des projets qui respectent l'éthique musulmane. East Angels, si vous avez des questions, je vous donnerai tous les noms.
On reviendra sur les questions. S'il y a des choses techniques que vous n'avez pas compris, etc., on reviendra avec vos questions, Inch'Allah, pour les éclaircir.
Absolument. Et donc, il y a quelque chose qui est important, et... on met un point d'honneur chez Finequity parce qu'en fin de compte, on va partout en France pour parler un petit peu de finance islamique, essayer d'aider. On ne fait pas que ça, on ne fait pas que de la formation ou de la conférence. On aide, on encadre aussi des gens qui ont des mémoires, on essaie de les aider au maximum. Et en parlant de mémoire et de formation, tout à l'heure, je crois que vous parliez de Dauphine, c'est ça? Vous disiez qu'on n'apprenait pas ce type de choses là-bas. Ah ben, je suis désolé de vous contredire. L'université Dauphine lance une chaire en finance islamique. Et lance un diplôme en finance islamique. Donc, c'est une bonne contradiction. L'université de Strasbourg a une formation, un diplôme universitaire niveau Bac plus 5. Il y a un institut à Boissy-Saint-Léger également qui a lancé une formation. Et l'université Dauphine lance une chaire en finance islamique et va lancer une formation. Finance islamique niveau Bac plus 5. Voilà. J'en reviens à Isla Angels. Isla Angels donc, va permettre, en attendant, qu'il y ait une banque de détails. Si vous me demandez, après ça sera très subjectif parce que c'est moi qui vais vous le dire. Si vous me demandez en combien de temps il y aura une banque islamique de détails, je vous dirais attendez encore 3 à 5 ans. Il y a beaucoup d'aménagements fiscaux à faire. Mais avant toute chose, et ça c'est mon argument préféré, on estime à 5, 6 millions de musulmans sur le territoire français. Vous savez que les Allemands sont deux fois, les musulmans en Allemagne sont deux fois moins que nous et ont un produit national brut deux fois supérieur à nous. Donc la population musulmane en France, je suis désolé de le dire, elle est très demandeur. C'est vrai, mais elle n'est pas apporteur de fonds, pas énormément apporteur de fonds. Donc c'est très difficile. Deuxièmement, et ça on adore le faire, nous funéputis, quand on parle de finances de détail, de banques de détail, on aime bien parler de l'Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'en Angleterre, il y a des banques islamiques de détail depuis 1998 avec HSBC. Entre 1998 et 2004... Oui, j'y arrivais. Entre 1998 et 2004, donc elles étaient pratiquement... C'est ce qu'on appelle des Islamic Windows, des fenêtres islamiques. Enfin, c'est des banques conventionnelles qui ouvrent une succursale islamique. Donc, c'est validé par les charias. J'ai lu les fatwas. Tout est correct. Non, je plaisante. Donc ils ont ouvert ça en 1998 et en 2004, il y a une nouvelle banque qui s'est ouverte, qui s'appelait l'Islamic Bank of Britain. Donc le label, c'était 100% islamique, sous-entendant que HSBC, qui avait ouvert une banque islamique, n'était pas 100%. Voilà, c'est ce que je m'amuse à dire. HSBC était 99%, IBB était 100%. Donc ils ont ouvert des banques islamiques de détail, mais le décollage n'a pas été aussi effectif que ça. Et pourtant, moi, c'est ce qui nous fait peur. Pour la bonne et simple raison que, en Angleterre, la population immigrée sont des Indo-Pakistanais, vous me corrigez si je me trompe, en grande majorité. En France, bon, on verra, en grande majorité du Maghreb. Au Pakistan, système totalement islamisé depuis 1983, sont totalement à l'aise avec tous les instruments dont on parle. En Algérie, ça remonte à 92, les premières. Au Maroc, ça remonte l'année dernière, encore c'était deux produits. Moi, en Tunisie, bon, c'était de l'assurance, de la réassurance avant, et bon, très récemment, ils ont lancé une banque de détail. Tout ça pour vous dire qu'on n'a pas une population qui comprend ce que c'est, comment fonctionne la finance islamique. Donc, s'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, comment ils peuvent demander ces produits-là ? Voilà. Voilà pourquoi la formation, c'est une chose qui est extrêmement importante, mais ça doit véritablement s'accompagner d'un accompagnement du consommateur, qui, n'importe quel type, pas forcément on regarde de toute façon, donc quand on fait des conférences, on ne regarde pas qui en a en face de nous, on regarde notre PowerPoint ou notre micro ou nos notes. Donc voilà. Donc, en tout cas, tout ça pour vous dire que la finance islamique est en train de s'installer en France. Donc, d'un point de vue législatif, c'est bien avancé. D'un point de vue de la formation, c'est un très très bon signe. C'est un très très bon signe. J'ai lu encore très récemment qu'une école supérieure de commerce à Montpellier, d'ailleurs ça serait peut-être pas mal d'aller là-bas pour le soleil, vont faire une petite formation en finance islamique. L'école supérieure de commerce de Reims a fait un majeur également en finance islamique. Donc la formation et le marché de la formation, excusez-moi de dire ça, est en pleine ébullition. C'est une très très bonne chose, mais il faut que ça s'accompagne de former nos cadres, nos futurs cadres, ça va être très important, mais accompagner aussi les individus à essayer de comprendre ce que c'est que la finance islamique. Pour revenir à la présentation de Finequity, c'est pas simplement que la finance islamique, il y a d'autres périmètres sur lesquels on travaille, le microcrédit, les systèmes d'échange locaux, le peer-to-peer et les tontines, dont je salue la présence de notre spécialiste de notre association ici. Présent, je ne le nommerai pas. Donc, et je vais répondre au charia board. Effectivement, et après je laisse moi, je ne reprendrai pas la parole une minute de plus, sauf dans le cadre du débat, si vous voulez me poser des questions. Donc pour l'avenir, il y a deux dates à retenir. Le 29 septembre, Christine Lagarde inaugurera la prochaine conférence sur l'euro-monnaie. Notamment, ils parleront énormément de finances islamiques. Et la prochaine date, c'est le 9 décembre 2009, avec le troisième forum français de la finance islamique, dont apparemment de grands politiciens, les membres les plus influents de la finance islamique dans le monde entier seront là. Donc voilà les grandes dates. Et je reviens au charia board.
Donc, effectivement, il y en a trois en France. Il y a beaucoup d'autres projets, je pense, de charia board, proclamés, autoproclamés, compétents, incompétents. Ça... La question qui se pose et qui va se poser, c'est effectivement, s'ils s'autoproclament, comment ça va se passer? Il y a deux pays qui ont centralisé leur charia board. Alors, le charia board, qu'est-ce que c'est? C'est le conseil de supervision. Donc, c'est composé de ulama, de spécialistes en fiqh mohammedan, dont je ne suis pas du tout compétent pour parler, et des spécialistes en même temps de finance, une double compétence pour la plupart. On en recense à peu près 250 dans le monde, et pour les meilleurs, il y en a à peine une dizaine. Le besoin du marché de la finance islamique, et c'est en même temps son plus grand frein, le charia board. Comme quoi, on reliera toujours les problématiques de formation au développement de la finance islamique. C'est le talon d'Achille. La finance islamique ne se développera jamais sans formation. Et on forme absolument, pratiquement nulle part. Donc aujourd'hui, juste pour je vous redonnerai les chiffres, j'ai l'étude, on estime le besoin à 10 ans de 1000 spécialistes, sachant qu'aujourd'hui, on n'en a que 254. Et qu'on est pratiquement incapable, c'est-à-dire que si ces personnes-là meurent, vont mourir dans les années, on est pratiquement incapable de les remplacer. Il faut une quinzaine, voire une vingtaine d'années pour les former. Voilà où est-ce que peut, comment on peut lier la problématique de la formation et des charia board. Et des charia board, il y a une solution, donc où ils sont localisés, c'est-à-dire dans un pays, il y a des banques, et voilà, des banques vont chercher des ulama n'importe où, et les intègrent dans la banque, dans la direction des affaires religieuses. Bah, il y a deux pays qui ont montré un petit peu une autre vision des choses, qui est, en fin de compte, de les centraliser au niveau de la banque centrale. Donc deux pays ont fait ça, il y a très longtemps, c'est la Malaisie. Donc voilà, je répondrai une fois de plus. Et il n'y a pas très longtemps de ça, le Sénégal. Le Sénégal a, d'entrée de jeu, centralisé un charia board. Donc voilà. Comme ça, il n'y aura pas... Déjà qu'il y a des divergences dans ce marché, on pourra en reparler d'harmonisation des normes, et heureusement qu'il y a l'OIFI et l'IFSB qu'elle a aujourd'hui. Mais au moins, ça permet de couper court à toutes les petites querelles qu'il pourrait y avoir. En France, je ne sais pas, je n'ai pas eu d'infos, mais en tout cas, ça m'a pas l'air de vouloir centraliser un charia board. En tout cas, ça peut être une solution. Beaucoup d'experts le disent. Beaucoup d'experts le disent qu'il faudrait mieux centraliser les charia board. Et pour répondre à un autre ami, il faudrait que vous parliez d'économie islamique, messieurs, tout à l'heure, et vous avez parlé de contrats. Il serait peut-être temps que l'économie islamique soit réellement réelle. C'est-à-dire qu'elle arrête d'utiliser du murabaha, l'achat de la revente, de faire une marge dessus, et qu'elle véritablement commence à partager. Les chiffres font mal. Le rapport moral sur l'argent de 2007, je pourrais vous fournir la photocopie si ça vous intéresse, fait état de 60%, 70% de tous les bilans, de toutes les opérations, la majorité des contrats qui sont utilisés, c'est des contrats murabaha. Donc ça veut dire quoi? On ne prend pas de risque? C'est pas contraire à l'éthique islamique, ça? Donc voilà, 30 à 40% respectent pour nous l'économie islamique, mais en fin de compte, elle ne prend pas réellement de risque. Donc tu parlais tout à l'heure du développement de la finance, de donner des leçons. Je pense que la leçon de la finance islamique viendra de pays non musulmans et non pas de pays musulmans. Donc je vais arrêter mon intervention parce que je pourrais parler des heures et des heures. Je vais laisser Mohamed Aissaoui, donc qui va vous parler un petit peu de la comparaison qu'on peut faire entre l'investissement socialement responsable et la finance islamique, essayer de voir un petit peu les points de convergence, les points de synergie, et en même temps voir où est-ce que ça pêche. Merci beaucoup.
Bonsoir à tous. Donc, en fait, on va faire une petite présentation, mais très brièvement, très rapide. Sur l'ISR, la finance islamique et les points de convergence, de différence et les points communs entre ces deux alternatives. Alors en fait, commençons déjà par l'ISR et puis faisons un petit aperçu sur l'origine historique de l'ISR. Et nous remarquons en fait que l'ISR trouve son origine dans les convictions religieuses de certaines congrégations religieuses dans le passé. En fait, l'ISR, c'est avant tout un ISR éthique à la base. C'était à l'initiative de certaines congrégations religieuses catholiques, mais aussi méthodistes, depuis le 19e siècle, qui voulaient en fait investir dans des fonds qui respectaient leur éthique et puis leurs croyances. Alors, au début du XXe siècle, on a eu quand même l'apparition d'un fonds très connu qui s'appelle le Pioneer Fund en 1928. Ce Pioneer Fund, il était en fait à l'initiative du Conseil fédéral des églises américaines qui voulait investir de façon qui respecte, d'une façon qui respecte un petit peu leurs principes. Dans l'investissement éthique aussi de ce Pioneer Fund, on trouve qu'il y a une exclusion sectorielle, en fait, exclusion des secteurs d'investissement comme le secteur de l'alcool, le tabac et puis surtout la pornographie. On a eu aussi en France, entre 1980 et 1990, l'apparition aussi d'un fonds ISR, suite aussi à l'initiative catholique, qui faisait en fait, disons, une exclusion sectorielle. Et la spécificité de ce ISR, qu'il avait un comité éthique qui faisait des réunions régulières tous les trois mois, qui font aussi de la réflexion sur les critères d'exclusion qu'ils peuvent ramener à ce fonds d'investissement. Donc les motivations d'abord, elles étaient pour un intérêt pour les entreprises qui ont des bonnes pratiques. Ce sont des entreprises qui ont des bonnes pratiques sociales et environnementales. Mais aussi, il ne faut pas oublier que c'était pour un activisme religieux. Et depuis, l'ISR, il a évolué. Parce qu'il commence à prendre plusieurs formes, comme le développement durable, la finance responsable et la finance solidaire. L'ISR aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la clientèle, ou disons les investisseurs, on trouve de moins en moins d'investisseurs religieux et de plus en plus d'investisseurs institutionnels. Ce panel d'investisseurs variés, il est en fait une cause des différentes formes de l'ISR. Quelques chiffres sur l'ISR en France. Aujourd'hui, on a à peu près 240 fonds qui sont gérés par 61 sociétés de gestion. Ça, c'est le nombre de fonds fin de 2008. Aujourd'hui, les encours d'ISR, ils sont à peu près dans 30 milliards d'euros. Ils étaient en 2007 dans les 22 milliards. Une croissance d'encours à peu près de plus de 30%. La clientèle institutionnelle, elle est prépondérante. Elle est à peu près 75% du marché. La clientèle institutionnelle, c'est les fonds de pension, c'est les caisses de retraite, de prévoyance, et c'est certaines mutuelles et assurances. Il y a 25% de particuliers. Quand on voit un petit peu les produits, ou disons les actifs sous-jacents de ces fonds ISR, on observe qu'en 2007, ils étaient à 50% des actions. Aujourd'hui, 2008, il y a une baisse de part d'actions et une augmentation en obligations. Et une augmentation aussi en monétaire. Cette baisse en actions et cette augmentation en obligations s'explique aussi par la crise financière. En fait, il y a, disons, une envie de ce qu'on appelle... Parce qu'avant, en fait, on voulait faire une appréciation du capital en investissant dans l'action. Aujourd'hui, on a plus envie de se réfugier vers les obligations pour avoir plutôt des cash flows récurrents et pour garder, préserver le capital. Les obligations, elles ont une croissance de 50% aujourd'hui dans les fonds ISR. Notons aussi que la pub épargne salariale, par exemple, aujourd'hui, c'est pas grand-chose dans l'ISR. C'est 8%. Donc ça, c'était vraiment brièvement en France, enfin, je veux dire, les chiffres ISR. Aujourd'hui, l'ISR est en nette augmentation et c'est des institutionnels surtout qui sont prépondérants comme clientèle. Passons maintenant à la finance islamique. Donc, très brièvement, la finance islamique, c'est cinq principes. Donc, c'est l'interdiction de l'intérêt et de l'usure. Ce qu'on appelle les trois P, en fait, le principe des partages de profits et des pertes. Un troisième principe, c'est la tangibilité du sous-jacent. Quatrième, c'est l'interdiction de la spéculation et de l'ambiguïté. Et le dernier, c'est l'interdiction dans l'investissement dans l'illicite. Ces cinq principes, c'est un petit peu les principes communs, en fait, à tous les montages de finances islamiques. Un finance islamique aussi se caractérise par un charia board. On vient d'expliquer ce que c'est que les charia boards. Très brièvement, c'est un charia board, c'est un comité qui valide les produits, qui fait de l'audit pour montrer le respect des principes de la charia, mais qui aussi garantit aux clients la conformité du produit. les montages et les mécanismes de la finance islamique sont spécifiques à la finance islamique. Murabaha, Mudaraba, Musharaka, etc. Ce sont des montages qui doivent respecter les principes de la finance islamique. C'est important. Et ces montages, pour qu'ils puissent, puisqu'ils puissent apporter de la valeur ajoutée, il faut qu'il y ait une fiscalité appropriée. Aujourd'hui, un des gros problématiques, c'est une fiscalité appropriée. Par exemple, la fiscalité, on a trouvé des solutions, Kader vient d'en expliquer, fiscalité appropriée, qui permet par exemple d'éviter la double taxation. Et la finance islamique, aujourd'hui, dans le monde, c'est surtout, elle est surtout implémentée, donc, sans doute, sans aucun doute, donc, dans les pays du Golfe. Ensuite, les pays du sud, enfin les pays du sud-ouest de l'Asie. Et enfin viennent Royaume-Uni et les États-Unis comme pays occidentaux. Alors, quand on essaie de comparer l'ISR à la finance islamique, on voit que tout d'abord, les considérations religieuses, ils étaient à l'origine des deux. L'ISR, elle est de moins en moins, il y a de moins en moins d'ISR éthique. D'ISR éthique, il ne faut pas oublier que l'ISR était à la, tout d'abord dans l'histoire une initiative de congrégations religieuses. Ils essaient tous les deux de gérer de l'argent et de la richesse avec justesse et équité. C'est le principe de l'ISR, c'est aussi le principe de la finance islamique. Par exemple, en finance islamique, c'est l'interdiction de l'intérêt, de l'usure, pour éviter l'accumulation de richesses d'un seul côté. C'est écrit dans la charia. L'ISR, on essaie de faire pareil dans le développement durable. L'intégration des critères d'exclusion se retrouve à la fois dans l'ISR et se trouve aussi dans la finance islamique. Enfin, quand je dis critères d'exclusion, c'est des critères, point de vue de la charia, c'est l'interdiction de l'investissement dans l'illicite. On exclut l'investissement dans l'illicite. L'exclusion sectorielle, c'est une pratique aussi, l'ISR. Il ne faut pas oublier qu'il y a une exclusion aussi normative. Une exclusion normative, c'est trouver des entreprises qui respectent des normes ou des conventions imposées par des ONG ou par les Nations Unies. Et dernière chose, en fait, c'est une finance de partage. Pourquoi ? Parce que c'est une finalité ISR avant tout. Le partage, c'est une finalité ISR avant tout. Et c'est quand même un point qui était abordé, par la charia et qui représente quand même un point très important du point de vue éthique dans la religion musulmane. Cette convergence aussi, elle se manifeste dans la finalité et dans les objectifs. Cette convergence n'exclut pas une différence factuelle, conséquence de trois choses. L'évolution de l'ISR. Aujourd'hui, l'ISR prend plusieurs formes. La finance islamique, elle repose sur la charia. Cinq principes, un petit peu, qui gouvernent les montages, et qui proposent en plus un système différent du système traditionnel. L'ISR, il s'inscrit bien dans le système traditionnel. Il ne propose pas un système ISR, disons. C'est un système traditionnel. Et troisième point important, c'est que la clientèle, elle n'est pas la même. Aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, la clientèle n'est pas la même. La clientèle, elle est différente. La clientèle ISR n'est pas la clientèle finance islamique. Dans tous les cas, il y a quand même un besoin de transparence dans les critères extra-financiers et dans les filtres éthiques qu'on essaie d'imposer à ce type d'investissement, que ce soit au niveau de la régulation, de la standardisation ou de la conformité. Alors que, par exemple, la finance islamique, elle repose sur des bases et des critères disposant d'un consensus identifié à une population, en fait, l'ISR, elle regroupe plusieurs approches. Et par exemple, des approches best in class qu'on ne trouve pas dans la finance islamique. Les critères écologie, qui est un critère ISR, pour le moment, il n'y en a pas vraiment en finance islamique. Quoique on verra plus tard qu'il y a quand même des initiatives de superposer les couches. Finance islamique ISR dans certains fonds. Il y a des produits qui superposent les couches, qui sont ISR et finance islamique à la fois, charia compliant. tout ce qui est social, gouvernance, en fait, ce n'est pas encore pris en compte dans la gestion d'investissement finance islamique. Alors, quand on revient à l'ISR, on voit que l'ISR, en fait, avant tout, c'est de l'investissement. Donc, l'ISR, c'est de la gestion d'actifs, avant tout. Donc, la finance islamique, c'est de la gestion d'actifs, c'est de la banque d'investissement, c'est du banque de détail, c'est des assurances, c'est un peu tout un ensemble de diversifier son investissement. Dans le but de la régulation, la finance islamique, il y a quand même une initiative, l'initiative de la LAOFI, qui est en fait l'organisation responsable de la formulation et l'émission de standards internationaux islamiques. Ces standards internationaux, en fait, ils s'appliquent à la fois sur la charia, la comptabilité, l'audit, l'éthique et la gouvernance. LAOFI aujourd'hui, c'est à peu près, c'est supporté par 165 membres institutionnels de 30 pays. C'est quand même beaucoup de travail. Parmi nos membres, on trouve des banques centrales, mais des régulateurs, des autorités régulatrices. On trouve aussi des institutions financières et des banques islamiques. Les standards aujourd'hui qui ont été issus par l'AOFI, c'est à peu près une trentaine de standards sur la charia, une vingtaine de standards sur la compta, 5 standards sur l'audit, 6 standards sur la gouvernance, et puis 2 codes d'éthique. Il y a aussi l'IFSB, créé par, dans le siège, il y a Kuala Lumpur, écrit en 2004. Il a mis en place 7 normes, surtout au niveau de la gouvernance et la gestion de risque. On voit aussi la multiplication des charia bonds. C'est quelque chose de bien, mais en même temps, complique un petit peu le travail pour la finance islamique. La multiplication, c'est un frein essentiel aujourd'hui à l'implémentation de la finance islamique un peu partout dans le monde, du fait de différentes doctrines, mais aussi différentes interprétations du texte coranique. Donc aujourd'hui, brièvement, il y a 10 choses qui ont été faites sur la finance islamique, mais il faudrait aussi peut-être centraliser, comme le dit Kader, tous ces charia boards, peut-être pour qu'ils soient moins dépendants de leur banque aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, un charia board, c'est un charia board par banque. À peu près, c'est ça. Donc, il faudrait peut-être casser cette dépendance charia board banque pour créer un charia board, enfin, j'en sais rien, mais peut-être des charia boards qui sont centraux et qui, à la fois, régissent les montages et auditent les montages financiers de toutes les banques de façon commune et indépendante, et complètement indépendante. Voilà brièvement, c'était la convergence entre l'ISR et le finance islamique.
J'ai juste une dernière chose pour relancer un petit... Et après, je t'ordonne le micro. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est que dans la finance islamique, et on retrouve la leçon dans l'ISR, on prend en compte les critères écologiques, on prend en compte des critères de social, de gouvernance, alors que ces mêmes critères, on les retrouve dans le Coran, et ils ne sont pas appliqués. J'ai fait une émission radio, une journaliste m'a appelé pour me dire, écoutez, j'ai épluché un fonds, et j'ai trouvé que dans un fonds islamique, il y avait une société, dont je nommerai pas le nom, qui maltraitait des enfants. Est-ce que c'est charia, monsieur? Qu'est-ce qu'on dit? Oui, après, il y a la pratique. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a énormément, dans la prise en compte de la finance islamique, c'est là toute sa puissance, c'est pas de prendre en compte uniquement un aspect de rentabilité financière, mais c'est également de prendre en compte tous les critères sur lesquels on se base. Le développement durable, c'est nos enfants plus tard. L'écologie, enfin, d'ailleurs, en plus, il y a un super beau film qui est sorti hier, c'est Home, donc il faut en profiter pour aller le voir. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, on le retrouve, pourquoi on l'applique pas? Il a parlé tout à l'heure d'un exemple, alhamdoulilah, ça fait un peu plaisir, ça vient de nos amis anglais et suisses. Donc les Suisses, la société de gestion, c'était Sustainable Asset Management. Et du côté de la banque d'investissement, c'était GetHouse. Ils ont lancé le premier fonds charia responsable pour faire une petite blague, en fin de compte, c'était un fonds qui était validé du côté Chalera par le comité de Chalera de Gatehouse et qui était validé par SAM du côté de l'ISR. Et c'est le premier fonds qui a été lancé, Chalera responsable, sur la thématique de l'eau. On a rencontré le PDG de Gatehouse il n'y a pas très longtemps. Il nous a dit surperforme. Il y a une surperformance financière et de deux, une surperformance extra-financière. Alors pourquoi nous sommes timides? Pourquoi les Chalera Board sont timides pour rentrer sur ces critères-là? C'est la finalité, et je pense très modestement, puisque je suis extrêmement, extrêmement minuscule à côté de vos connaissances sur la Chalera, mais je pense que c'est un principe de la Chalera.
Excuse-moi, avant de donner la parole quand même, on a été un petit peu, on va dire, attaqué entre guillemets. Quand même, on a droit à la réponse quand même, amicalement par notre ami Abdelkader, nos deux frères. Bien sûr, premièrement, nous on ne représente pas les Chalera Board ici, mais quand même, c'est très important de souligner que si on veut parler du point de vue théorique, il y avait des dizaines de colloques point de vue écologique. Notre frère, il a dit que la finance islamique n'a pas traité les questions écologiques, je suis désolé. Il y avait des colloques qui ont été faits, des publications. Avec toute modestie, j'ai intervenu au niveau de la Fraternité d'Abraham, qui est une association internationale interreligion entre chrétiens, juifs et musulmans. J'ai intervenu spécialement sur ce sujet-là, sur le rapport de l'islam et l'écologie. Et je vous donnerai, Inch'Allah, plus tard, le lien, vous allez entendre la conférence et sa publication, etc. Maintenant, est-ce que, entre la théorie et la pratique, c'est quand même, il y a un gouffre. Bien sûr, les banques et la finance aujourd'hui, les entreprises qui sont en train de polluer, les crises qu'on a eues de la pollution, ce sont ces banques-là, c'est les donneurs de leçons, qui sont en train de polluer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a publié un article ou bien on l'a mis dans notre charte que ces entreprises-là ne vont pas... L'argent n'a pas d'odeur, comme ils disent. Alors, bien sûr, je suis complètement d'accord avec vous, et je partage avec vous cet avis, en tant que musulmans, nous avons une lourde responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de ce qu'on a écrit, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit tout au début que, en tant que musulmans, nous démarrons de la croyance, de la foi, et nous devons à Allah subhanahu wa ta'ala des choses avant d'avoir ce devoir-là vis-à-vis des hommes. Maintenant, la responsabilité doit être faite sur chaque personne qui est responsable de ces Chalera Board. Malheureusement, il y a une chose importante que je souligne rapidement. En général, les Chalera Board, ce sont des gens qui travaillent dans des banques. C'est-à-dire, il travaille dans une banque, on lui présente un produit, il est payé. C'est-à-dire que s'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec ce produit-là. S'il ne craint pas Allah Azzawajal, il va trouver toutes les tournures. Je ne dirais pas qu'il y a des ruses, je dirais pas qu'il y a des interprétations, parce qu'il y a une bonne interprétation du Coran ou il n'y en a pas. Mais trouver des ruses, le hiyal, pour légitimer ou dire tel produit est halal, etc., et malheureusement ça existe, ça c'est des choses qui relèvent de la responsabilité de chacun. Donc on ne peut pas généraliser et dire que l'islam n'a pas donné une importance à l'écologie. Il a donné de l'importance à l'écologie, comme l'a donné tous les autres courants, mais reste dans la pratique, les musulmans, ce sont des hommes comme les autres. Voilà.
Merci. Merci.
Un petit mot, je voudrais dire, par rapport, on a fait une étude au niveau de l'école de guerre économique sur les fonds éthiques, les SR et tout, et les fonds islamiques, on a trouvé, donc ça a duré 48 heures, c'est des études comme ça, c'est des cas, on a trouvé que une vingtaine des SR qui ont des failles comme ça. Soit de fonds islamiques purs, soit qui font travailler les enfants, qu'ils investissent ou bien qu'ils ont des actions dans des sociétés. Oui. De toute façon, donc, c'est vrai, devant une problématique. Est-ce qu'il faut donc créer un institut de contrôle ou bien il faut attaquer ce genre de fonds éthiques qui disent éthiques ou bien islamiques? C'est un problématique.
Alors, on devrait s'appuyer sur un principe de la finance islamique qui est clair, c'est la transparence.
Alors, simplement pour essayer d'aller plus vite, je résume effectivement ce qui a été dit. Donc, merci à Kader et à Mohamed Issaoui, que je n'ai pas présenté par oubli. Donc, c'est un expert en risque et en management, donc j'ai pas, il m'excusera. Je les remercie pour cet exposé qui est effectivement riche, bien qu'il ait succinct et rapide, parce que bon, l'ISR c'est tout un sujet, hein, il y a des thèses sur l'ISR et ses fonds et comment on, par critères d'exclusion, par secteur, par donc c'est vraiment tout un c'est à la mode en plus et c'est toute une conférence qu'il faut pour détailler les ISR. Alors effectivement, Kader a parlé d'un problème très important qui est effectivement est-ce que c'est dans nos habitudes, nos musulmans de France, de parler de finance islamique, d'accepter la finance islamique. Moi j'entends même aujourd'hui des gens qualifiés qui disent qu'il n'y a pas de finance islamique, vous, entre guillemets, excusez-moi du terme, vous foutez de notre gueule, et simplement vous êtes en train de colorer la finance conventionnelle pour dire que c'est islamique. On n'est pas d'accord avec ça parce que c'est une ignorance effectivement du sujet. Et de deux, c'est vrai qu'ici en France, on n'a pas encore cette culture de par nos pays d'origine. Parce que comme vous le savez, les musulmans de France, c'est en grande partie les maghrébins. Donc, mais ça viendra, hein, avec ces conférences, avec la sensibilisation, avec l'intérêt qu'a aujourd'hui la finance islamique. Parce que je le rappelle, il y a 4000 milliards de dollars de dépôts dans les pays du Golfe, 1000 milliards de dollars captés par la finance islamique et 100 milliards de dollars, c'est la finance islamique en chiffres, 100 milliards de dollars manquent à gagner en France. C'est vraiment juteux et effectivement, ça a amené les déclarations que vous avez vues de Christine Lagarde et autres. Et donc, notre responsabilité, c'est effectivement de comprendre ce qui se passe et d'être les garde-fous de ce système. On a parlé de Sharia Board. Donc, en Angleterre, l'Angleterre aujourd'hui, c'est la plaque tournante de la finance islamique. L'IBB, l'Islamic British Bank, nous a donné des leçons et effectivement, je pense qu'ils vont reproduire un petit peu le même modèle, mais francisé, au niveau de la jurisprudence, au niveau de la fiscalité. Historiquement, la finance islamique a démarré dans des pays comme le Pakistan, l'Égypte, hein, le Soudan, qui a islamisé dans le nord du pays, effectivement, dans le nord du pays sans système, la Malaisie, l'Indonésie, et puis effectivement, on a vu deux systèmes de Sharia Board. Ça, c'est très important. Un Sharia Board qui est effectivement aujourd'hui, qui siège, c'est un peu l'équivalent du conseil d'administration, qui siège dans les banques, et ça c'est dangereux, parce qu'on a un problème de conflit d'intérêts, parce que c'est dans l'intérêt de la banque effectivement que le Sharia Board dise oui, et c'est dans l'intérêt du Sharia Board qu'il dise oui à ce produit, qu'il le valide sans trop regarder, en utilisant l'hiyal sharia, ce qu'on appelle l'hiyal sharia, les ruses, etc. Et donc là, on rentre dans un problème éthique de piété, de responsabilité personnelle. Et il y a aujourd'hui, heureusement, des Sharia Board, donc dans deux pays, comme tu l'as bien dit, le Sénégal et la Malaisie. Le Sharia Board, donc, c'est un conseil de savants et de financiers composé de quatre écoles sunnites reconnues. Hanafite, Malikite, Shafi'ite et Hanbalite. Bien que le Hanbalisme ne forme pas la majorité et qu'il est assez pauvre en matière d'interprétation jurisprudentielle. Donc, le Sénégal et la Malaisie ont réussi à décentraliser, donc à avoir un Sharia Board central qui est quand même indépendant. Et c'est ce qui, peut-être, se passera ici en France, on le verra. Donc, la question du conflit d'intérêts, qui est contraire à l'éthique, ce qu'on appelle les cheikhs de Wall Street aujourd'hui, qui règnent sur la finance islamique, donc je vais vous présenter quelques livres tout à l'heure.
Ils sont à Paris
en ce moment. Et donc, je finis par vous présenter quelques livres qui peut-être, enfin, qu'on conseille, qui, entre autres, hein, parce qu'il y en a beaucoup, qu'on a lu et qu'on vous conseille. Donc, il y a le système bancaire islamique, aspect théorique et pratique. Je les laisserai après pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements, de Mohamed Boujalel. Hein, c'est les éditions de l'Institut international de la pensée islamique. Vous avez l'Islam et le monde des affaires de Lachmi Siyar, donc qui est quelqu'un qui a étudié à Montréal et qui nous a fait une topo, un résumé de ce qui est... Voilà, et j'ai un autre, donc la finance d'aujourd'hui, la finance islamique, Michel Rémy, hein, que je ne connais pas, donc que je découvre. La finance islamique à la française, qui est un livre connu aujourd'hui, qui a été écrit par Secure Finance, qui est aujourd'hui une entreprise qui travaille aujourd'hui sur le sujet. Et en arabe, on a pas mal de livres. Pour ne pas vous noyer, il y a effectivement Takaful en assurance islamique, un livre très important que je conseille, qui est assez résumé, les 20 Ta'min ou Mawqif Shari'a Amin, qui parle du Takaful, donc de l'industrie de l'assurance islamique. de la mutuelle islamique. Donc c'est Maulawi, Cheikh Maulawi, donc c'est il est parmi de ce qu'on appelle les Cheikhs de Wall Street, hein, c'est quelqu'un, c'est un Libanais. Il était donc le conseiller dans le tribunal de la charia sunnite supérieure à Beyrouth, en Liban. Vous avez aussi l'Ouassit, Fil-Qsissad Islami, du docteur Ahmed Nissalhaq, hein, qui est un brillant économiste en économie islamique et en économie politique, en géopolitique et en économie, parce que c'est lié. L'Ouassit, Fil-Qsissad Islami, l'Asri, on est dans le Sharikat Islami, l'Asri, en deux tomes. Et vous avez, pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance sur l'investissement socialement responsable, donc un livre qui est assez important, qui constitue une base pour les gens qui n'ont pas encore cette compréhension de ce qu'est l'investissement socialement responsable, donc de César de Brito aux éditions Economica, dont vous les trouverez tout à l'heure. Et puis, en dernier lieu, donc, Aswaq Awraq Maliya, Wadawabata Finnazar al-Fiqhi, qui est un livre qui nous vient de l'Arabie, qui parle un peu de la bourse en islam. Donc voilà un peu en résumé ce qu'on peut dire. Et puis, il y a effectivement des sites qui parlent de cela. Il y a le site de finance islamique. Il y a Doctrine Malikite qui a réservé une rubrique à cela. Il y a Finiquity, notre partenaire, qui a aussi réservé toute une rubrique avec l'actualité, les formations, etc. Et puis Aslama qui vient aussi de rejoindre ces conférences de sensibilisation et ces productions destinées à la fois à la communauté musulmane et à tout le monde, on va dire, pas seulement à la communauté musulmane, puisque la finance islamique, je le rappelle, n'est pas seulement destinée à un public islamique. Voilà, donc je vous donne la parole donc, pour vos questions. Donc j'espère qu'on essaiera de répondre le mieux possible selon les compétences de chacun à vos questions.
C'est très simple, on parle de la France, on parle de la Grande-Bretagne, mais on ne parle jamais des États-Unis. Ils en sont où avec la finance des États-Unis?
Ils sont pionniers dans l'émission d'un second coup en 2003, si ils sont bons, j'espère pas vous dire des bêtises, j'ai retiré ça. Ils ont lancé une chaire à Harvard en 2001, ils ont lancé une chaire à l'université d'Harvard. Il y a la Noriba Bank qui est là-bas. Tous les vecteurs ont été touchés. Tous les vecteurs. On a écrit un article à ce sujet-là où on a fait un paysage international de la finance islamique. Et donc la banque de détail est touchée, le corporat a été touché, l'émission de soukouk est touchée, l'assurance n'a pas été touchée et l'indice sharia compliant existe. Donc c'est la finance islamique aux États-Unis existe depuis assez longtemps.
Il y a l'indice Dow Jones islamique, tu n'as pas parlé de ça.
C'est l'indice sharia compliant.
C'est important ça, parce qu'effectivement, quand même, la finance islamique aux États-Unis, puisque la formation de la population immigrée, quand même, c'est les Libanais, les Égyptiens, c'est la même population que l'Angleterre. Donc effectivement, on va avoir le même flux qui s'est déplacé vers ces pays-là, qui est quand même...
Oui, vas-y. Non, excuse-moi. Je peux continuer dans le strict discours d'Obama. Ils ont une grande population musulmane.
Ouais.
Mais
ouais.
Ils ont couvert la finance islamique depuis assez longtemps. Tout simplement, c'était pas si médiatisé que ça. Personne n'avait l'info. Mais en tout cas, ça existe depuis assez longtemps.
S'ils veulent la développer, c'est quoi leur politique?
Je vous inviterai à des travaux de recherche de Monsieur Coste, qui fait des travaux un petit peu sur les forces de la finance islamique, et notamment aux États-Unis, au Golfe et en Asie du Sud-Est. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, faut pas être timide, hein, on est gentil. Hein.
Bonjour. Excusez-moi l'ignorance, je vais vous poser une question un peu plutôt. Question un peu, je veux dire, historique. Ça vient, vous avez parlé de beaucoup de choses qui sont intéressantes, qui me disent des choses en tant qu'économiste. Malheureusement, je ne suis pas un spécialiste de la finance islamique, donc je ne connais rien. Ce que je voudrais savoir, c'est, vous avez parlé d'histoire, c'est important. Je voudrais savoir dans les moments où les banques existent depuis relativement longtemps, dans les pays occidentaux en tout cas, je voudrais savoir dans quelle mesure l'histoire de l'islam, donc notamment des empires ottomans et autres, nous apprend comment cette islamisation de l'économie ou ces banques islamiques ont pu exister, comment ça a été organisé, est-ce qu'il y avait des charia à bord, est-ce qu'il y avait une centralisation, et comment peut-on lire cette histoire et essayer de trouver des réponses aux questions qu'on pose aujourd'hui. Donc voilà.
Je répondrai peut-être partiellement à la question en restant contemporain et je laisserai nos éminents savants essayer de peut-être répondre un peu plus. La finance islamique, enfin contemporaine, elle n'est pas si vieille que ça. Hein. C'est pas si vieux que ça, la finance islamique.
On daterait ça entre 70. Bon, là, avec la mise en place de. Tout à l'heure, elle a parlé de la Banque islamique de développement en 1975. Et la première banque, c'était la Dubai Islamic Bank, c'est ça, je sais pas. Dubai Islamic Bank était la première banque commerciale en 1975. La première société de Takaful était en 1979. Donc c'était pas si vieux. C'est pas si vieux que ça. Ensuite, plus loin la finance islamique, je ne sais pas. J'ai pas. Enfin, c'est partiellement, mais bon, je laisserai répondre plus eux. Non, sujet-là.
Ma question va au-delà de juste la finance islamique telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est le financement de l'économie.
Alors, il y a trois systèmes sont totalement islamisés. C'est l'Iran, le Soudan et Pakistan. Donc, et ça date de entre.
L'Iran, c'est plutôt nationalisé.
Ouais, nationalisé, islamisé. Enfin, toute l'économie est, et respecte les principes de l'islam. Entre 79 et 84, ces trois pays ont totalement islamisé leur économie. Ensuite, de façon plus ancienne, nos amis vont répondre. Mounir, non? Ahmed.
Bon, je peux dire un mot. Tout d'abord, si on parle des banques au sens, on va dire, moderne aujourd'hui qui financent, bien sûr, vous savez que la décadence du monde musulman, c'était le 16e, 17e siècle, c'est-à-dire avec la révolution industrielle, etc. C'est en ce moment-là qu'on a commencé à voir ce genre de financement de l'économie. Mais ça n'a pas empêché que Omar ibn Khattab, par exemple, il a payé de ce qu'on appelle Bayt al-Mal.
Deuxième
calife de l'islam, il a payé de Bayt al-Mal. Bien sûr, ce n'est pas avec l'organisation qu'on voit aujourd'hui, avec les experts comptables, la finance, etc. Mais à l'époque, quand même, c'était une révolution. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des ouvrages qui sont des ouvrages de base, de référence à travers l'histoire, ce que Abdoui, c'est-à-dire Abu Yusuf Yaqub, par exemple, dans le Kharaj, ou bien Ibn Khaldoun, ou bien Al-Makhrizi, ou bien Chartébi, ou bien beaucoup d'autres. Quand même, ça reste des références très importantes, mais les expériences, ça ne manque pas. La matière première, elle est là, mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des grands spécialistes en charia, en même temps, des gens qui comprennent très très bien la finance. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a une certaine dichotomie. On peut trouver des grands financiers qui sont des grands experts en la finance, mais qui ne comprennent pas très très bien comment on peut tirer un commandement, c'est-à-dire d'un verset ou bien d'un hadith. Ce qui a fait qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des majama' fiqhiyah, c'est-à-dire on a un regroupement de spécialistes en charia et de spécialistes en finance, etc., qui se regroupent pour, par exemple, juger tel, par exemple, produit, est-ce qu'il est halal ou pas halal. C'est-à-dire un spécialiste en charia ne va pas comprendre les complexités d'un produit, surtout si c'est des produits pourris qui sont maquillés comme...
En tout cas,
voilà. Donc, même... Il y a la matière première, elle est là. Les expériences, elles sont là. Bien sûr, nous avons quand même un déficit aujourd'hui. On vit un sous-développement. Le monde musulman vient un sous-développement dans la matière grise, il faut le dire. C'est une vérité, surtout du point de vue...
La compréhension.
Surtout du point de vue charia. Excusez-moi, j'ouvre une toute petite parenthèse. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a une grande barbe ou une grande djellabia, ou bien on parle la langue arabe très très bien, qu'on est habilité à tirer un commandement. Il faut avoir... Aujourd'hui, malheureusement, c'est la mode que n'importe qui commence à parler de charia et parler de commandement. Et dire, voilà, ça c'est halal, et lancer une fatwa. Or, normalement, on devrait avoir des compétences très pointues. C'est très important qu'on doit avoir un bagage. On va avoir des ijazat, on va avoir une formation très qualifiée pour tirer un commandement. C'est malheureux de le dire, c'est malheureux de le dire. Et malheureusement, ça, on peut le trouver aussi dans ce qu'on appelle les charia à bord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le frère a parlé tout à l'heure, des quatre grandes écoles. On entend maintenant aujourd'hui des gens qui ne sont pas de l'ordre des quatre écoles et qui ne sont pas qualifiés à parler c'est-à-dire de tirer un commandement, etc. Donc il faut avoir une compétence qualifiée, reconnue par l'ensemble des ulama et quand même un bagage très important et comprendre un peu cette finance, la finance.
Wallahu a'lam. Il y a aussi effectivement une chose très importante qui a été aujourd'hui, on va dire, absente dans les raisonnements des musulmans, des savants musulmans, pendant cette période un peu de décadence et de sous-développement culturel et spirituel. Le texte et le contexte, il y a toujours le texte et le contexte. Dans la vie, dans l'histoire de l'islam, tel qu'il était dans sa lumière et dans sa grandeur, il y a eu par exemple Omar ibn Khattab, le deuxième calife, c'est un exemple qui revient toujours, parce qu'effectivement, il a montré l'exemple de quelqu'un qui ne s'arrête pas au texte, mais qui travaille sur le contexte. Fiqh al-waqi'a. Ça, c'est très important. Alors, le Khattab, quand il avait la famille, il a levé la sanction sur le vol, par exemple. Alors que c'est quelque chose qui est dans le Coran. Donc, il a adapté le texte au contexte. En finance, en matière de finance, le Khattab, il a dit, celui qui veut le halal ou le haram, qui veut connaître le halal ou le haram, le licite et l'illicite, va voir Mouad Mujabel. Celui qui veut voir l'interprétation du Coran, il va voir Ibn al-Abbas. Et celui qui veut la finance, il vient me voir. Donc, c'est quelqu'un qui a géré le monde musulman, de la, entre guillemets, d'une façon qui ressemble à celle qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire il a distingué les métiers, il a distingué la gestion de la comptabilité, il a fait en sorte qu'il y a un système islamique pour la première fois à Médine, et après plus tard on va voir la même chose avec Omar al-Aziz, avec surtout l'école halafite aussi en Irak, qui a donné un exemple rare de la gestion économique, de la gestion financière avec des produits comme l'istisna par exemple. Hein, c'est l'école halafite qui est derrière l'istisna. Et aujourd'hui, il y a même des débats qui disent « Ah ouais, l'istisna, c'est interdit. » Donc, il n'y a pas unanimité des quatre écoles, donc c'est interdit. Mais l'istisna, il a une utilité. C'est un peu comme le salam. Simplement, son but, c'est la construction de quelque chose. Et la construction, c'est une utilité publique. C'est quelque chose de très important. Donc, effectivement, le fiqh, s'il est dénué du contexte, dénué de l'utilité, le maqsad, de la finalité de la charia, il ne vaut rien. Et ça, malheureusement, ça va être absent à partir à peu près du XVIe siècle. Il va y avoir une chute civilisationnelle et puis une chute morale, éthique, spirituelle qui va faire que le fiqh, en tant que compréhension de la charia, compréhension subtile, en tant qu'évolution par rapport au contexte, va s'arrêter. Hein, et ça, c'est malheureux. Et la civilisation musulmane, évidemment, n'avait pas des banques islamiques, mais il y avait effectivement des gestionnaires, il y avait le trésor public, il y avait la mutuelle, c'est très important. À l'époque, en effet, il y avait ce qu'on appelle les mutualités, c'est-à-dire quand il y avait des orphelins de guerre ou des veuves, etc. Donc la communauté islamique solidairement cotisait dans un fonds qui était reversé après aux familles des victimes et des gens qui ont subi cette épreuve. Donc il y avait effectivement des manifestations d'une finance islamique bien avant le 19e, bien avant le 20e siècle, mais la finance islamique qui a une approche financière qui ressemble à ce qu'on vit aujourd'hui à la finance conventionnelle, on l'a eu qu'à partir des années 50-60, on ne va pas revenir sur l'histoire de la finance islamique, on l'a eu qu'à partir effectivement d'une certaine conscience du monde islamique après la colonisation, de la gravité de la situation dans laquelle se trouvait le monde musulman, et en parallèle de la richesse de la religion islamique qui offrait pas mal de choses, et historiquement qui a prouvé le bon fonctionnement de ces choses-là. Donc évidemment, il y a eu deux choses effectivement qui ont évolué de façon parallèle. Et la finance islamique, aujourd'hui, elle a tout à faire. Parce que quand on parle d'instruments financiers, les futurs, les forwards, etc., tout ça aujourd'hui, c'est dû à quoi? C'est dû à l'ingénierie financière. Les gens ont essayé d'innover, de créer des trucs, mais malheureusement, ils n'avaient pas de limite. Ils n'ont utilisé que le court terme. Et l'un des composantes essentielles de l'ISR et de la finance islamique, c'est la prise en compte du long terme. C'est très important parce que, évidemment, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec les suprêmes, c'est que les PDG, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, moi, je calcule mon rendement sur l'année. Si je ne fais pas mon rendement sur l'année, je suis viré. Ok, donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, chacun, Madoff, par exemple, les crédits pourris, et on pensait, bon, je vais rembourser par l'intérêt de l'autre. Et il savait pertinemment que ça va finir. Ce n'est pas une chaîne infinie. Évidemment, il a continué parce qu'il voulait des rendements à court terme. Les suprêmes, c'est des rendements à court terme. Après, sur 2 ans, 5 ans, lui, il ne sera plus là, donc il serait déjà enrichi, et après moi, le déluge. Et ça, l'islam et toutes les religions monothéistes sont évidemment contre ce principe-là, qui est contraire à l'altruisme, qui est contraire à la solidarité humaine, qui est contraire à tous les principes des trois religions monothéistes. Donc le court terme qui est privilégié dans la finance conventionnelle, et le moyen long terme qui est privilégié dans la finance islamique et dans la finance éthique. C'est le tronc commun entre toutes les religions et qui doit être remis à sa place pour pouvoir avoir une finance responsable au-delà des agissements des hommes. On a parlé des hommes et de la religion, donc parfois on trouve des abus, parfois on trouve des dérives, ça existe partout. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut faire avancer la finance islamique dans son contexte et essayer de trouver évidemment un fonctionnement correct, une régulation centrale, etc.
Moi, ce que je peux rajouter, c'est de dire que un petit point par rapport à l'émergence des sciences en islam, toute façon, le droit musulman, ça n'a pas existé à l'époque du prophète, l'exégèse, le coranique et tout. Grammaire. C'est les grammaires et tout. La théologie, ça n'a pas existé à l'époque du prophète. Tout ça, donc, c'est avec le temps, c'est-à-dire pour répondre à un besoin. Mais il y avait les germes, il y avait donc les bases de la finance islamique. Donc, les principes de la finance islamique viennent de fiqh al-mu'amalat, donc la jurisprudence, les transactions et tout. Donc, il y avait tout ce genre de transactions, ça existait à l'époque du prophète. Mais maintenant, ça n'empêche pas que les musulmans élaborent ou bien s'inspirent de l'ingénierie financière.
Mais c'est d'ailleurs oui, ce qu'ils ont fait.
C'est clair, oui.
Donc, c'est clair. Pour nous, ça demande ce
qu'ils ont fait. Il faut vivre la modernité en conservant notre authenticité.
Je tiens à dire un mot seulement. On nous présente l'économie islamique. Il y a beaucoup d'Algériens qui ne savent pas, entre guillemets. Il y a un grand savant islamique qui s'appelle Cheikh Abdelhalim Esmaïr. C'était un ancien moufti d'Algérie. Il a écrit un livre très intéressant sur l'interdiction du riba des banques en 1905. Vous imaginez, 1905. Parce qu'on nous présente l'économie islamique, elle a commencé avec Cheikh al-Bahi, dans les années 48. Donc, il y a des penseurs, il y a des écrivains, il faut les chercher.
Je me présente, M. Al-Saïdi, je travaille dans le dialogue interreligieux, et je voulais vous poser trois questions par rapport à votre conférence. La première, c'est par rapport à l'héritage en fait, de l'économie islamique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à partir de la Renaissance, finalement, l'économie occidentale a décollé avec le capitalisme et que l'islam, finalement, en refusant quelque part le prêt à intérêt d'une manière un peu dogmatique, s'est privé en fait de ce décollage économique? En disant ça, je suis d'accord avec vous sur le fait que le prêt à intérêt constitue aussi un problème grave dans l'économie aujourd'hui. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est est-ce que l'économie islamique a su développer un firq, en fait, un développement du droit adapté à aujourd'hui? Parce que un des problèmes du dysfonctionnement dont on a parlé, c'est le problème entre justement l'investissement socialement responsable et l'investissement islamique. Donc, est-ce que les musulmans aujourd'hui ont des instruments juridiques pour comprendre, en fait, toute la complexité des investissements aujourd'hui? Voilà. Et ma troisième question...
Je vais répondre à la première.
Oui, ma première question, c'est la suite de réflexion générale. Ce qui est intéressant dans la finance islamique, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on considère, vous considérez dans l'islam et dans le judaïsme, dans le christianisme aussi, finalement, qu'il doit y avoir un contrôle moral, un contrôle religieux sur l'économie. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, en fait, qui tranche justement avec le message du libéralisme. C'est-à-dire qu'effectivement, l'économie doit être contrôlée, supervisée, organisée par la spiritualité par la religion. Et ça, vous êtes là, c'est un message très fort. Mais pour que le message soit porteur, il ne faut pas que ça soit justement réservé justement à des spécialistes du monde islamique ou du droit, mais ça doit être porté de façon universelle par d'autres penseurs.
Mais ce qu'a dit tout à l'heure, et ça oui, recoupe avec ce que vous dites, ouais, excusez-moi, pour l'ISC, hein, les communes, en 82-83, Madame Rey, qu'on avait une belle influence dans ses investissements, a créé un comité qui surveillait ceux qui géraient son compte.
Mais pas seulement religieux, parce que je pense aussi que dans l'économie, le principe de l'économie, c'est que la société doit avoir un contrôle sur l'économie. Donc il doit y avoir des critères, des éléments religieux, mais pas seulement religieux. Voilà.
Merci.
Excusez-moi, je vais répondre.
On va peut-être prendre toutes les questions, puis après on répondra. C'est peut-être mieux.
Je me mets ça. On prend toutes les questions et on répond globalement à la fin.
Non, on répond à chaque question après. Juste pour ne pas. Il y a d'autres questions?
On va répondre rapidement, sans prendre trop de temps. En ce qui concerne la première question, pourquoi la question, je peux poser la question inversement. Pourquoi l'islam était au niveau quand il a interdit le riba? C'est-à-dire, normalement, c'est très important. Le décollage de l'Occident n'est pas dû à l'usure ou à l'intérêt. Pourquoi d'autres sociétés qui n'ont pas interdit l'usure et l'intérêt n'ont pas décollé? Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas le riba qui a fait que ces sociétés n'ont pas décollé. Quant à la moralité, avec la permission de mes amis, le dernier point, on partage avec Finequity, on travaille, on partage beaucoup de choses. On a dit que nous, musulmans, on a, ou bien les religions en général, on a notre mot à dire, puisque depuis très longtemps on dit à ces chers, c'est-à-dire illuminés, qui nous disent, écoutez, la moralité c'est quelque chose de péjoratif, laissez-nous travailler, vous nous faites des barrières. Aujourd'hui c'est eux qui font appel à la moralité. Donc leur moralité, elle est valable, notre moralité, elle n'est pas valable. On a droit de dire qu'il y a des lignes rouges, qu'il y a des garde-fous, faites attention. On n'a pas dit que la nôtre, elle est la plus bonne, la plus efficace, etc. On dit que le terrain prouve qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui est efficace. Je laisse la deuxième question de faire loi.
Simplement, pour les instruments existent, les gens qui sont compétents existent. Simplement, ce qu'on manque d'unification des choses. C'est-à-dire aujourd'hui, chacun travaille un petit peu dans son petit coin. Chacun travaille de façon un peu, on va dire, décentralisée. Il n'y a pas un organe central de fatwa. Il y a des mujemma'at, il y a ce qu'on appelle mujemma'at fiqhi. Il y a des comités qui existent un peu partout en Angleterre, en Arabie Saoudite, le mujemma'at fiqhi Mecca, mujemma'at fiqhi, etc. Mais aujourd'hui, un organe crédible, n'existe, enfin, dans le sens du terme, n'existe pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de clergé en islam, mais il y a quand même les fuqaha qui ont cette compréhension de la religion, et les instruments d'adapter le texte au contexte, ils sont là, ils existent. Simplement, parfois on ne leur donne pas la parole, parfois on les méprise, parfois on ne les écoute pas, et parfois, le problème, c'est un problème politique, c'est-à-dire qu'on mélange un peu le religieux avec la politique, ça donne de très très mauvais résultats, parce qu'en fait, on veut adapter le fiqh à une volonté politique. Et j'insinue là tout ce qui est pression de la Banque mondiale sur les pays musulmans, par exemple, qui empêche ces pays musulmans, je nommerai pas les pays, d'avoir un système économique entièrement islamique. Et ça, chacun le sait, ce n'est pas la peine de détailler. Donc, il y a aujourd'hui une politique de lobby qui s'exerce sur le monde musulman. Je ne dis pas que le monde musulman n'a pas ses torts. Évidemment, le monde musulman a ses torts. Il n'est pas uni, il ne veut pas décoller vers ce fiqh al-waqi, vers ce fiqh du contexte, qui est quand même très important, et qui était effectivement le principal facteur de son décollage dans les siècles de lumière, où il a régné pendant je ne sais pas combien de siècles. Donc le fiqh de Loire existe, les instruments existent, les fuqaha existent, simplement il n'y a plus d'organe central depuis la chute de la khilafa islamique, donc depuis effectivement qu'il n'y a plus de pouvoir entre guillemets central, depuis qu'il y a ce lobby qui s'exerce et qui empêche effectivement les musulmans, et aussi qu'il y a des facteurs éthiques dans le monde musulman qui empêchent le consommateur entre guillemets d'agir de façon saine, de façon éthique, et de façon spirituellement et moralement responsable. Et donc, ce qui fait qu'on est dans cet état de fait, hein, on est dans le constat. Et puis sur les intérêts, moi, je vais vous donner simplement un exemple de banques dans lesquelles j'ai travaillé. Le fait que leur bilan soit composé d'intérêts, surtout les intérêts du marché, a fait que ces banques aujourd'hui souffrent et certains ont déposé le bilan. Donc l'intérêt, ce n'est pas un facteur de richesse. Au contraire, c'est un facteur, comme j'ai dit tout à l'heure, un facteur de richesse à court terme. Parce que ça ne peut pas durer. Vous êtes un créancier, vous avez quelqu'un devant vous qui ne peut plus payer, et vous êtes en train d'augmenter les pénalités de retard encore et encore, jusqu'à quand? En islam, évidemment, les pénalités de retard n'existent pas. Dans le système occidental, vous augmentez les pénalités de retard jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce que, évidemment, vous ne pouvez plus honorer la dette, et évidemment, ça se retourne contre vous. Donc, vous enregistrez une perte beaucoup plus supérieure à celle que vous aurez dû avoir si vous avez en face un simple crédit qui n'a pas été honoré, sans compter les pénalités de retard et les intérêts. Donc, évidemment, c'est un problème à la fois éthique, à la fois de destruction de valeur, et ça, vous le trouverez aussi dans l'ISR, dans les analystes de l'ISR, ils ont remis en valeur ce problème de destruction de valeur. Et quelle est la vraie valeur à laquelle on doit s'attacher? L'économie réelle contre l'économie du marché. Et un marché, comme on le disait tout à l'heure, qui aujourd'hui a tendance à être régulé par les États. En islam, évidemment, la chose est tranchée. Le marché n'est pas régulé par l'État. Le marché est régulé par lui-même. Donc le prophète Sallam disait « Allahu al-musa'ir ». Donc évidemment, sauf en cas de spéculation d'agissement spéculatif contraire à la morale. Donc évidemment, là, l'État peut intervenir. Donc voilà un peu en gros ce qu'on peut dire. Simplement, sur les instruments financiers en relation avec le marché d'aujourd'hui, il y a tout à faire. La finance islamique aujourd'hui, elle essaie, par exemple, le fiqh hanafite essaie de s'attaquer à la question des contrats futurs. Et ça, il y a tout un débat là-dessus. Il y a des études qui ont été faites. Pour ceux que ça intéresse, je peux leur donner le lien. Et donc, effectivement, il y a une ingénierie financière qui commence à développer, que je trouve assez intelligent. Il faut être optimiste. Et je pense que la finance islamique a son mot à dire. On doit la laisser dire ce qu'elle a à dire. Et on va voir. C'est le consommateur qui va avoir le dernier mot. Hein, il y a les garde-fous qui sont le consommateur. Donc, c'est vous. Et donc, en fonction de ce qui va se passer, l'avenir nous dira si, effectivement, la finance islamique honorera ses engagements ou si on retombera dans l'échec, ou si effectivement on réajustera le tir. Voilà.
Bonjour, moi je suis diplômé en économie de développement et économie de gestion.
Enchanté.
Moi j'ai une question concernant, concernant le problème de formation. Je veux savoir, est-ce qu'il n'y a pas une tendance à une coopération entre peut-être les écoles de religion, c'est-à-dire les écoles de religion et les écoles d'économie classique pour former des responsables. Et je me demande aussi pourquoi, en finance, en économie islamique en général, on n'a pas une tendance, est-ce qu'on aura peut-être dans le futur une tendance à avoir, comme en économie, conventionnelle, l'émergence des conventions. Les conventions qui sont devenues des institutions maintenant, est-ce qu'il y aura peut-être, est-ce que pourquoi pas un jour, il n'y aura pas des conventions en économie islamique qui deviennent des institutions en matière de la finance islamique et d'économie islamique en général.
Sur la formation,
c'est... Je vais essayer de répondre. Concernant ta première question sur les coopérations envisageables entre des universités et des centres de théologie ou en vue de faire émerger une formation qualitative en finance islamique. Si on regarde l'exemple anglais, en fin de compte, quand ils ont sorti une formation, à vrai dire, ils ne se sont pas trop cassés la tête. Hein. Ils ont sorti un livre, en fin de compte, c'était en collaboration avec l'École supérieure des affaires de Beyrouth et un institut financier anglais. Ils ont sorti un livre qui s'appelle Islamic Financial Qualification. Ils l'ont sorti à plus de 150 000 exemplaires et ils l'ont vendu l'équivalent de 130 livres. 130 livres anglais. Ils ont vendu des milliers d'exemplaires. Donc, je ne l'ai pas ici. D'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt. Il y a des formations en France. Pourquoi j'irai chercher des livres anglais pour vous les présenter? Quel est l'intérêt? Donc, à ce jour, on ne connaît pas, et je ne pense pas que... Je ne sais pas, mais j'ai peut-être une petite idée là-dessus, mais je ne sais pas si je pourrais me permettre de l'exprimer. Connu à ce jour des collaborations entre des instituts de théologie et des grandes universités, il y a eu des approchements qui ont été faits, mais qui ont été coupés net. Ça, je suis catégorique. Ça a été coupé net. Ensuite, concernant les conventions, aujourd'hui, il y a trois organes de contrôle. Donc, on n'a pas arrêté de parler de la EIFI avec Mohamed a parlé de la EIFI. Il a parlé de l'IFSB, International Financial Service Board, eux qui mettent des normes de gouvernance, des normes de gestion de risque. Il y a aussi la Banque islamique de développement qui émet ces normes. Comme dit un ami, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc aujourd'hui, c'est l'émergence d'un système. Déjà, on arrive à se mettre d'accord avec trois organes en 30 ans. J'allais dire, faut regarder les choses avec optimisme et se dire que les Arabes ont réussi à se mettre d'accord, enfin que... Pour essayer d'harmoniser la finance islamique en trois décennies, on a trois organes de contrôle, c'est peut-être une bonne chose. Il y a d'autres organes de contrôle, qui des agences de rating, des conseils de création de marchés financiers islamiques qui sont en train de se mettre en place. Après, moi, je ne suis pas compétent pour tout ce qui est FIRC, mais je pense qu'à l'Académie du FIRC, etc., qui essaie de faire un petit peu harmoniser les fatwas, je pense. Bon, enfin, là, je sais pas. Mon domaine s'arrête et je laisse la réponse aux autres.
Bon, simplement, pour ceux qui veulent effectivement avoir plus d'informations sur à la fois l'information et la formation et l'actualité de la finance islamique, je vous invite à vous envoyer un mail ou à aller consulter la rubrique finance islamique dans doctrine-maliki.fr. Vous y trouverez effectivement à la fois l'actualité Vous y trouverez aussi les formations et les conférences qu'on fait à chaque fois, donc c'est dans un endroit différent. Et aussi, donc, à chaque fois, on a des partenaires, à la fois locaux et internationaux, pour évidemment parler de cette question de la finance islamique. L'introduction en France de la finance islamique, elle est récente. Donc, les deux premières banques d'investissement, pas de détails, qui vont entrer en France. Les deux premières banques d'investissement qui vont entrer ici en France, donc en juin et peut-être en septembre 2009. Donc, il y a la QIB et la Qatar Islamic Bank, et puis une autre que je ne connais pas. Mais en tout cas, c'est dans quelques mois, donc c'est vraiment d'actualité. Et donc, ceux qui veulent effectivement avoir plus plus d'informations, donc il y a le site, et puis vous pouvez toujours nous envoyer évidemment vos questions par mail, et pour s'informer aussi des prochaines conférences. Et on vous remercie pour votre présence et votre attention.